Il est 7h, bon réveil.
21h, je travaille la journée, je vis la nuit. Donc pour moi, ça reste un confinement. Hein.
Interdiction de sortir entre 21h et 6h du matin pour l'Île-de-France et 8 métropoles. Ça va durer au moins 4 semaines, peut-être 6. Mesure difficile à avaler pour les jeunes qui ont bien conscience d'être les premiers visés. Nous irons à leur rencontre dans un bar de Lille. Si ces efforts sont demandés aux Français, c'est bien pour désengorger l'hôpital et protéger les soignants. Des personnels déjà à bout, appelés à la grève aujourd'hui notamment pour de meilleurs salaires. Dans ce journal, nous vous dirons quel est le mode de transport qui a le plus progressé depuis le déconfinement. Un indice, ce n'est pas le vélo. Et puis, nous évoquerons les accusations de sexisme et de harcèlement qui planent sur la Fédération française de foot.
Juste après ce journal, toujours cet arbitrage entre le sanitaire et l'économique, les nouvelles restrictions et leurs coûts. L'éclairage éco de Nicolas Barré. Un dialogue entre Israël et le Liban, une première en 37 ans. C'est le regard international de Vincent Hervouet. Heureusement, il y avait les Bleus pour nous changer les idées hier soir. L'édito sport de Virginie Fulpin. Nous retrouverons ensuite Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il va s'appliquer à la région Île-de-France, Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse.
Vous étiez des millions à regarder Emmanuel Macron hier soir à la télévision ou à l'écouter sur Europe 1, président qui qualifie la situation de préoccupante et décide donc de passer à la vitesse supérieure avec ce couvre-feu qui va donc durer au moins un mois. Bonjour Élise Dangean.
Bonjour.
Alors à quoi va ressembler le nouveau quotidien des quelques 20 millions de Français concernés ?
Eh bien, ça risque fort de se résumer à métro, boulot, dodo. Concrètement, si vous vivez en Île-de-France ou dans l'une des 8 métropoles concernées, vous devrez être chez vous à 21h. 21h, c'est l'heure à laquelle les cinémas, les restaurants ou encore les théâtres devront tirer le rideau. Attention, il ne s'agit pas pour vous de quitter les lieux à 21h, mais bien d'être rentré. Pensez donc au temps de transport. En cas d'infraction, vous risquez une amende de 135 euros, 1500 si vous récidivez. Et Emmanuel Macron l'a promis, hein, les forces de l'ordre procéderont à des contrôles. Alors il y aura évidemment des dérogations pour celles et ceux qui travaillent de nuit ou pour les urgences sanitaires par exemple, ce qui marque le grand retour des attestations que l'on a connues pendant le confinement. En revanche, pas de restrictions pour se déplacer d'une région à l'autre. Soyez donc rassurés si vous aviez prévu de partir en vacances à la Toussaint. Pas besoin de les annuler.
Voilà une bonne nouvelle, Élise Dangean.
Emmanuel Macron nous demande aussi des efforts à tous dans notre vie quotidienne, en famille, entre amis, pas plus de 6 personnes en même temps.
Ah oui, fini les soirées et donc aussi les dîners ou les sorties dans les zones les plus touchées. Le président a bien dit qu'il ne voulait pas stigmatiser les jeunes, mais eux sentent bien qu'ils sont les premiers visés. Écoutez ce reportage de Lionel Gougelot hier soir dans un bar de Lille.
Attablée en terrasse, cette bande de copines trinque une dernière fois avant le couvre-feu.
Faut bien fêter ça, on le prend du bon côté.
Fataliste et réaliste, elle s'attendait à ce nouveau tour de vis.
En vrai, c'est justifié quand même parce que les hôpitaux ils commencent à être remplis, etc. Donc oui, c'est justifié.
Ça concerne tout le monde, c'est pas une question de oui, on est jeune, on a envie de faire la fête, mais il n'y a pas que nous. Enfin, on n'est pas le centre du monde, c'est compliqué pour tout le monde.
Et dans la discussion, Capucine finit par amorcer un début de mea culpa.
D'un autre côté, c'est aussi un peu de notre faute parce que c'est nous qui propageons le virus beaucoup, quoi. Avec nos soirées et tout, bah oui, on sait qu'on est en partie responsable quand même.
Un laisser-aller qui exaspère à la table d'à côté.
Alors qu'on est des personnes qui ont fait très attention pendant l'après-confinement et on se retrouve pénalisé à cause de personnes qui n'ont pas fait attention.
Mais un couvre-feu à 21h, c'est pas un reconfinement.
21h, je travaille la journée, je vis la nuit. Donc pour moi, ça reste un confinement. Hein.
En tout cas, pour tous, le sentiment d'une année véritablement plombée par le virus.
C'est sûr, comme dit Macron, c'est pas évident d'avoir 20 ans en 2020.
Et l'impression que cela va encore durer en 2021. Lille, Lionel Gougelot, Europe
1. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, ça sera l'une des phrases à retenir de l'interview d'Emmanuel Macron hier soir. De nouvelles aides sont prévues pour tous ceux qui vont souffrir du couvre-feu, notamment les restaurateurs, ainsi que les personnes les plus modestes, les bénéficiaires du RSA et des allocations logement auront droit à 150 euros plus 100 par enfant.
Emmanuel Macron l'a dit, il veut reprendre pleinement le contrôle de l'épidémie. Un président rattrapé par la réalité, obligé d'annoncer les mauvaises nouvelles. Bonjour Michaël Darmon.
Bonjour.
Ce qui vous a frappé, c'est l'évolution dans son style très différent des interventions précédentes.
Et oui, pas d'envolée lyrique, pas de référence à la guerre. Dans le ton présidentiel, il y avait un petit côté Michel Chevalet, hein, le couvre-feu, comment ça marche. Et dans l'esprit d'Emmanuel Macron, ça va marcher avec le chef du gouvernement, Jean Castex, qui va décliner aujourd'hui toutes les modalités modalités concrètes du couvre-feu, entouré des ministres concernés, intérieur, santé, économie. Le contrôle des déplacements avec l'attestation, les mesures pour accompagner les secteurs touchés par ce confinement nocturne, ça va être avec le gouvernement. Jean Castex va reprendre en main donc la gestion du Covid. C'est lui qui va coordonner toute l'action. Sa mission, c'est aussi de protéger un président qui souhaite se préserver pour la fin de son mandat. Jean Castex était monsieur déconfinement, le voilà devenu monsieur couvre-feu.
Merci Mickaël Darmon et la conférence de presse de Jean Castex, ce sera cet après-midi à 14h.
7h05 sur Europe 1. La pression hospitalière ne cesse d'augmenter, les soignants sont très fatigués. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron hier soir, des soignants appelés à une mobilisation nationale aujourd'hui.
Oui, ils réclament un plan Marshall de l'hôpital avec des ouvertures de lits, des créations de postes et de meilleurs salaires. Victor Delande.
Lors du Ségur de la Santé, 15 000 recrutements avaient été promis pour l'hôpital public, mais sur le terrain, les soignants ne voient toujours pas ces embauches, mais encore plus de trous sur les plannings. Sur leur feuille de paie, les soignants toucheront 183 euros nets par mois en plus. Mais pour Thierry Amouroux, porte-parole du syndicat national des professionnels infirmiers, ça ne suffit toujours pas.
Au final, les infirmières qui étaient sous-payées de 20% par rapport au salaire moyen européen jusque-là, seront encore à moins 10% sous le salaire infirmier moyen européen. Donc on sera un peu moins mal payé, mais on sera toujours sous-payé, ce qui du coup a motivé les jeunes à partir.
Les soignants qui travaillent dans le médico-social et qui n'ont rien obtenu sont également très remontés, sans parler de ceux qui n'ont même pas touché la prime Covid lors de la première vague. Catherine Kiernidis, présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux.
Il y a des infirmiers libéraux qui sont allés en renfort dans les établissements dans le Grand Est et dans les Hauts-de-France et au prétexte, ils n'ont pas travaillé plus de 25 jours. Ils ont eu zéro prime et encore, certains ont dû attendre plusieurs semaines avant d'être payés. C'est honteux.
Pour ces soignants qui n'ont rien touché en mars-avril, ils sont très rares à vouloir rempiler pour les prochaines semaines.
Victor Delande.
Avez-vous changé vos habitudes de transport depuis le confinement? La réponse est oui, dans les grandes villes. Mais quel est le mode de déplacement qui a le plus progressé, vous allez être surpris? Eh bien, c'est la marche à pied.
Et oui, c'est une étude réalisée par Kizio, filiale de Keolis, que Europe 1 peut vous révéler en avant-première. Ce matin, les traces GPS de plus d'un million de Français ont été analysées entre début février et fin septembre. Davantage de cyclistes, mais surtout davantage de marcheurs. Aurélien Fleureau.
Pour des trajets de 2 ou 3 km, fini les quelques stations de métro ou de bus, le moyen de transport plébiscité, c'est votre paire de chaussures. C'est l'un des constats qui a le plus surpris David Honnel, directeur des activités de Kizio, qui a compilé et analysé des millions de données de géolocalisation depuis le confinement et surtout depuis la rentrée.
Ce qui est très frappant, c'est la forte hausse de la marche. Elle est utilisée maintenant comme un mode à part entière pour tous les trajets de plus de 2 km, soit en tant que trajet complet, soit en complément du transport en commun, dont elle est un complément très naturel. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que les gens ont changé de stratégie dans les transports en commun. Ils essayent de faire le moins de changements possible. Et donc ces deux phénomènes cumulés font cette explosion de plus de 200% de la marche.
Autre conclusion de l'étude, les habitudes de transport ont évolué selon les jours de la semaine. Le vendredi n'est plus le jour où les Français se déplacent le plus. Les pics se situent désormais les mardis et les jeudis, notamment sur les routes. Et si dans les grandes agglomérations, la fréquentation des transports en commun baisse durablement, moins 35% en Île-de-France, moins 20% en moyenne dans les principales métropoles. Il n'y a en revanche quasiment aucun changement dans les petites villes et les zones rurales où l'utilisation de la voiture reste largement privilégiée.
Information Europe 1 d'Aurélien Fleureau. Un suspect en garde à vue dans l'enquête sur la mort de la jeune Victorine à Villefontaine en Isère. Un jeune homme de 25 ans, déjà connu de la police pour vol et trafic de drogue, a avoué les faits. Et puis 500 personnes étaient rassemblées hier soir devant le commissariat de Juvisy-sur-Orge dans l'Essonne pour une minute de silence en soutien à un policier grièvement blessé. Il a été renversé par le conducteur d'une voiture volée. Aujourd'hui, Emmanuel Macron doit recevoir les syndicats de policiers.
Du football à présent. Les Bleus ont réussi à égayer notre soirée en remportant leur match hier soir en Croatie, 2-1.
Oui, début de Griezmann et Mbappé. La France reste en tête de son groupe de Ligue des Nations à égalité avec le Portugal. Et pendant ce temps à Paris, c'est la soupe à la grimace à la Fédération française de foot. Selon le New York Times, un audit sur la gestion du personnel vient d'être lancé, Jérôme Lacroix. Il s'agit de mettre fin à ce qui est qualifié de culture d'entreprise toxique.
Toxique au point que plusieurs directeurs de services ont récemment été placés en arrêt maladie pour plusieurs semaines. De hauts responsables en conflit depuis des mois avec Florence Ardouin, directrice générale de la fédération, dont les méthodes de management sont jugées brutales. Certains salariés ou ex-salariés décrivent stress, harcèlement moral au quotidien. Et puis il y a ces accusations de harcèlement sexuel. Plusieurs femmes dénoncent des attitudes, des mots déplacés, notamment lors de soirées entre membres du personnel. Une plainte avait visé un directeur financier après une fête à Moscou en marge du Mondial 2018. La justice n'avait pas donné suite, selon la fédération, mais depuis peu, la consommation d'alcool est interdite dans le cadre du travail et une formation anti-harcèlement est obligatoire pour les salariés. Il n'y a pas de guerre civile, c'est ce qu'assure le président de l'instance, Noël Le Graët, qui a entamé il y a peu une série d'entretiens individuels pour mettre fin à cette situation.
Jérôme Lacroix.
7h10, merci beaucoup Hélène Zelani. C'était le journal de 7h ce matin sur Europe 1. Très bon réveil.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Les annonces du président de la République, les réactions bien sûr, vous ne manquerez rien sur Europe 1 ce matin. Les enjeux aussi de cette nouvelle séquence qui commence, le couvre-feu, les réunions de famille à 6 et masquées, la jeunesse qui parfois peut se sentir visée. Et en même temps, c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui, dit le président de la République. À 7h40, tout à l'heure, un autre regard sur l'actualité, je reçois le philosophe André Comte-Sponville. Il s'inquiète pour nos libertés, il s'inquiète pour la jeunesse. Mais une question ce matin, a-t-on raison d'avoir peur? Le philosophe André Comte-Sponville, invité du tête-à-tête Europe Matin, c'est tout à l'heure. Tout de suite, l'éclairage éco de Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h12 sur Europe 1.
Et maintenant, l'éclairage éco vous est présenté par Audi Occasion Plus, le label qui vous garantit de profiter longtemps de votre Audi, quel que soit son âge.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Les mesures annoncées par le président de la République vont avoir de lourdes conséquences économiques.
Oui, en effet, sauver des vies ou sauver l'économie. Depuis le début de cette crise du Covid, cet arbitrage est un casse-tête pour tous les gouvernements de la planète. Alors, chaque fois qu'on resserre la vis sur le sanitaire, le coût économique se chiffre en milliards d'euros, en milliers de défaillances d'entreprises et en centaines de milliers d'emplois menacés ou perdus. 700 000 rien qu'au premier semestre. Je rappelle que les 8 semaines de confinement au printemps avaient fait chuter la richesse nationale en France d'un tiers. Le nouveau tour de vis annoncé hier soir par Emmanuel Macron aura certains coûts économiques moindres, mais c'est un coût très dur pour l'hôtellerie, les cafés, la restauration, le tourisme, la culture, etc. Beaucoup de restaurants, par exemple, qui seront obligés de fermer le soir, n'ouvriront pas à midi.
Et ces secteurs dont vous parlez sont ceux qui avaient été les plus touchés par la première vague déjà.
Oui, voilà. Avec les transports et l'aéronautique, l'ensemble de ces secteurs, c'est 10% de l'économie française. Or, ce sont ces mêmes pans de notre économie qui vont payer le prix économique du couvre-feu. Près du tiers des 700 000 emplois déjà détruits cette année l'ont été dans ces secteurs qui ont perdu jusqu'à la moitié de leur chiffre d'affaires. C'est le cas dans l'hôtellerie-restauration ou dans l'aéronautique. On parle donc de dizaines de milliers d'entreprises qui ont subi la première vague, qui commençaient tout juste à sortir la tête de l'eau et qui vont subir maintenant la deuxième vague de plein fouet. C'est dévastateur. Il y aura hélas des dégâts définitifs dans l'hôtellerie, la restauration, la culture. Les dépenses aujourd'hui des ménages sont inférieures d'un tiers à ce qu'elles étaient avant la crise. On voit donc bien qu'il y a une partie de ces emplois perdus qui ne reviendront pas, ou en tout cas pas avant longtemps.
Le couvre-feu va néanmoins s'accompagner de nouvelles aides.
Oui, bien sûr. Les dispositifs de chômage partiel seront prolongés. En effet, il y aura de nouvelles facilités pour obtenir des prêt garanti par l'État également. Et puis côté social, le chef de l'État, vous l'avez dit, a annoncé le versement d'une nouvelle aide exceptionnelle de 150 euros pour les plus précaires, plus 100 euros par enfant. Mais au-delà de ces mesures, le grand enjeu économique des prochains mois, bien sûr, ce sera de ne pas casser l'élan que doit apporter le plan de relance. C'est le risque de ce couvre-feu qui frappe des régions et des métropoles, Île-de-France, Lille, Lyon, Toulouse, Aix-Marseille, etc., qui sont au fond les piliers de notre économie.
Merci Nicolas Barré. Entrée, plat, dessert avant 20h30, vous y êtes préparé?
Ah, c'est difficile.
C'est difficile. On va évoquer évidemment tous ces secteurs économiques frappés. Je voudrais aussi qu'on pense un instant à la culture. On a beaucoup parlé ces derniers temps des restaurants, des bars, des cafés.
C'est catastrophique pour les musiciens.
Pour les musiciens, les concerts, les théâtres, le spectacle vivant d'une manière générale.
Exactement.
C'est très très compliqué ce qui s'annonce. Et ils avaient pourtant aussi, je ne me prononce pas, mais un dispositif sanitaire qu'ils avaient respecté. Ça va être très compliqué pour eux. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Nicolas Barré. Il est 7h15. Le regard international de Vincent Hervouet. Bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Israéliens et Libanais ont commencé à discuter hier pour délimiter le tracé de leurs frontières maritimes. C'est la première fois qu'ils se parlent officiellement depuis 37 ans.
Alors si vous écoutez Washington, l'événement est historique. Les deux pays sont en guerre depuis 1948. Donald Trump était en barboteuse. Miracle, hier matin, en présence du secrétaire d'État adjoint David Shanker, ils se sont enfin adressé la parole. Une discussion productive a claironné le département d'État. Décidément, l'Amérique est grande. Donald Trump l'avait déjà été le mois dernier en parrainant les accords entre Israël et les Émirats Arabes Unis ou en imposant à la Serbie de déménager son ambassade à Jérusalem.
Au Liban, l'avancée est
plus modeste.
En effet, les deux délégations sont rencontrées à Nakoura, au QG des casques bleus du Sud-Liban, c'est-à-dire en terrain neutre. Les émissaires assis autour d'une même table, mais sans jamais se parler. Ils s'adressaient au médiateur, un diplomate de l'ONU, et deux monologues croisés, donc plutôt qu'un dialogue. Les Israéliens alignaient une demi-douzaine de hauts fonctionnaires, les Libanais deux militaires, pour montrer qu'il s'agit de discussions techniques, pas d'une négociation. Il n'est toujours pas question de reconnaître l'entité sioniste. Seulement, les deux officiers libanais étaient flanqués de deux civils, ce qui a fait enrager le Hezbollah qui dénonce une capitulation honteuse. En fait, il y avait un juriste normal. Il s'agit de délimiter les eaux territoriales sur une zone maritime de 860 km² et aussi un spécialiste de l'énergie. Et pour cause, c'est la soif de gaz qui motive la rencontre.
Et les Libanais veulent exploiter leur fond marin.
Il y a du gaz au fond et le Liban a perdu 10 ans. Les voisins ont pris de l'avance dans les forages. Ils ont même lancé un projet de gazoduc avec l'Europe. Et il y a une autre urgence. Donner de l'espoir aux Libanais qui n'ont plus d'argent, plus de gouvernement et plus aucun respect pour leur parti politique. Enfin, il faut aussi donner des gages à Donald Trump en campagne électorale et qui brandit des sanctions. La panique donc, et l'appât du gain pave cette route de la paix. On verra après l'élection américaine, le 3 novembre, si c'est ou non une impasse.
Oui, ça approche évidemment. 37 ans qu'il ne s'était pas parlé, le Liban-Israël.
Oui, depuis 1983.
Je viens de réaliser que je n'étais pas né la dernière fois qu'ils se sont parlé. Merci Vincent Hervouet, il est 7h17. À suivre, juste après l'interview du président de la République et l'annonce de nouvelles restrictions, le couvre-feu, du football, avec un stade, avec du public en Croatie. Hier soir, heureusement que les Bleus étaient là. C'est l'édito sport de Virginie Fulpin.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Vous êtes sur Europe 1, 7h20, l'édito sport de Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
L'équipe de France de football s'est imposée 2-1 contre la Croatie hier soir à Zagreb. Pour vous, l'enchaînement entre les annonces du président de la République sur le couvre-feu et le match des Bleus a eu un petit côté cruel. Mais le foot, dites-vous, permet de positiver quand même.
On a tendance à réagir au quart de tour en ce moment, quand le président de la République a annoncé un couvre-feu pour une vingtaine de millions de Français. Pour le sport, on s'est d'abord dit que les matchs à 21h, c'était fini. Mais en fait, autant pour le sport amateur, c'est un vrai problème. Encore une fois, les entraînements après le boulot, ça va être compliqué. Autant le sport pro, c'est un travail. Donc les matchs vont se jouer, même en Île-de-France et dans les 8 métropoles concernées par le couvre-feu. Des matchs à huis clos, bien sûr. Alors passer de 1000 personnes à zéro en tribune dans une petite salle, ça change tout. Dans un grand stade, franchement, ça revient à peu près au même. C'est ce que je me disais en essayant de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Et puis on a enchaîné avec le match des Bleus contre la Croatie à Zagreb. 7000 personnes en tribune, la vie dans le stade, cette clameur oubliée qui est venue réchauffer nos oreilles et nos cœurs, comme pour apporter un contraste cruel avec ce qu'on venait d'apprendre. Ouais, c'est dans ces moments-là qu'on réalise à quel point le public nous manque, à quel point il fait partie intégrante du sport. Moi, j'étais presque contente quand les Croates ont marqué en deuxième mi-temps. Oui, j'ose le dire. Parce que les supporters ont donné de la voix. On aurait cru un stade à guichet fermé. C'était comme une incursion dans le monde d'avant.
Oui, le monde d'avant. Et puis tiens, comme dans le monde d'avant, les Français ont aussi battu les Croates.
Oui, ça change pas. Ne nous emballons pas. On était loin de la finale de la Coupe du Monde. Et tout n'a pas été parfait chez les Bleus. Mais j'ai pas envie de faire la fine bouche là. L'équipe de France a fait un très bon début de match et c'est Antoine Griezmann qui a ouvert la marque. Si ça n'est pas un signe d'espoir, ça veut donc dire qu'on peut être au fond du trou et renaître, je le note. Il dépérit au FC Barcelone, mais là, le sourire qui a illuminé son visage après son but magnifique, moi, ça m'a transporté. Oui, on est un peu à fleur de peau en ce moment. En plus, il a marqué juste avant 21h. Il applique vite les règles, Antoine Griezmann. D'ailleurs, les Bleus ont respecté un couvre-feu en deuxième mi-temps. Tout s'est éteint ou presque.
Ça, c'est bien vrai.
Ouais, enfin, j'exagère, parce qu'il y a eu une action de classe mondiale. Pogba, Ding, Mbappé et but. Je vous conseille de le revoir, à montrer dans les écoles de football, comme on dit. 2-1 pour les Bleus qui réussissent à refroidir le public quand il y en a un. Alors, positivons, même quand ça va mal, cette équipe réussit à s'en sortir et à gagner. On va méditer ça pendant 6 semaines,
non ? Deux très jolis buts de l'équipe de France hier soir, finalement pour nous égayer après l'interview du président de la République. Merci Virginie Fulpin, on va méditer ça pendant 6 semaines. 7h22. Et comme tous les matins, on parle d'histoire avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. J'espère sincèrement que quand vient mon tour de prendre la parole sur Europe 1, chers auditeurs, chères auditrices, et que je vous raconte d'où viennent certaines expressions, vous n'en avez pas marre. En avoir marre. Un mot très simple, mais avec des racines étonnantes. Marre était à l'origine un verbe, se marrer, qui signifiait non pas se bidonner allègrement, non, l'inverse. Cela voulait dire s'ennuyer. Se marrer s'écrivait alors avec un seul R. On disait aussi se marrir pour désigner l'ennui. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, et encore aujourd'hui, enfin chez moi, on dit être fort mari pour parler d'une forte contrariété.
Mais alors, je ne voudrais pas justement vous contrarier, Stéphane, mais est-ce que vous savez d'où vient en avoir marre ?
Oui, je le sais. Mais rendons à César ce que l'on doit à Alain Rey, la star des linguistes. C'est à la fin du XVIIIe siècle que marre ou marée désigne la part d'un butin. Les voleurs, une fois leurs méfaits commis, se partagent l'argent volé. Avoir son marre, c'est avoir sa part, avoir son compte. Ainsi, ce qui était hier avoir ce dont on a le droit devient avec les années avoir son compte. Comprenez, en avoir marre, c'est être arrivé à saturation. En Allemagne, on dit avoir le museau plein. En Espagne, en avoir jusqu'aux œufs. J'arrête là avant que vous n'en ayez marre.
Merci Stéphane. 16h, tout à l'heure, historiquement vôtre.
Oui, aujourd'hui, on sort les muscles. Enfin, surtout eux, hein, parce que moi, j'aurais du mal. On réunit trois armoires à glace de l'histoire. La légende de la Grèce antique, Hercule, Johnny Weissmuller, qui a incarné Tarzan à Hollywood, et Teddy Riner. Bref, on vous raconte l'histoire sans se la raconter, au risque de se prendre un mauvais coup. C'est avec Mathieu Noël de 16h à 18h sur Europe 1.
À tout à l'heure. 7h24 sur Europe 1. Sophie Echen pour le journal et Laurent Cabrol pour la météo dans quelques toutes petites minutes. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Il est 7h27 sur Europe 1. Laurent Cabrol, tiens, j'ai une solution pour la planète à vous proposer. Moi. J'espère que Fanny Agostini, qui sera avec nous un peu plus tard, écoute déjà. On va solutionner le changement climatique. Je voudrais vous raconter l'histoire lue dans Science et Avenir de Jackson. Ouais. Jackson, c'est un collégien américain. Il a 12 ans et il vient d'entrer dans le Guinness Book des records. Savez-vous pourquoi ? C'est la plus jeune personne à réussir une fusion nucléaire. Il a 12 ans, j'allais dire, le jeune garçon est parvenu à fusionner deux atomes de deutérium. Je ne rentre pas dans les détails, évidemment, parce que je ne maîtrise pas ce qu'il maîtrise. Pour réaliser cette fusion, le garçon originaire du Tennessee a utilisé un fusor. Ça permet de créer un champ magnétique. Et il n'a pas acheté cet appareil sur eBay ou Amazon. Il l'a fabriqué lui-même de toutes pièces. Et ensuite, on peut utiliser cela pour chauffer de l'eau, faire tourner une machine à vapeur qui va produire de l'électricité. 12 ans, hein, 12 ans. Et déjà, le gamin qui nous dit qu'elle espère qu'elle sera rentable et une bonne source d'énergie pour, pourquoi pas, arrêter le changement climatique. Faisiez quoi, vous, à 12-13 ans, Laurent Cabrol ?
Jouer au basketball.
Vous savez, on va parler justement de la jeunesse et de ce que disait Montaigne de la jeunesse avec mon invité à 7h40. Il m'a fasciné, ce gamin, Jackson Oswald. Bravo à lui, 7h28. Laurent Cabrol, la météo.
Eh bien, nous sommes, nous, en ce qui nous concerne, un peu maris du temps qu'il fait, parce que, comme disait Stéphane, c'est vrai qu'on en a ras-le-bol. Ah tiens, voilà, ras-le-bol, une expression qui il n'a pas donné encore. Il va falloir en faire. Enfin, en tout cas, on en a marre de ce temps-là.
On va attendre un peu pour ras-le-bol.
Mais c'est vrai qu'on en a vraiment marre. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, aujourd'hui, c'est pratiquement comme hier. C'est-à-dire que les deux tiers de la France sont sous la pluie. Des pluies fines, des pluies fortes, peu importe. Mais enfin, il pleuvra. Excepté quand même sur la Normandie, le Nord, la région parisienne, la vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charente, l'Aquitaine et les Midi-Pyrénées. Nous aurons là, dans ces contrées, certes, un ciel couvert ce matin et ensuite un rayon de soleil dans le courant de l'après-midi. Mais enfin, ça ne sera pas folichon non plus. Hein. Le temps restera donc maussade. Les températures ce matin se situent entre 5 et 9 degrés. Dans la journée, entre 9 et 12 sur la moitié nord, avec 12 à Paris, 12 à Lyon, et 13 degrés sur la moitié sud, avec 14 à Toulouse, 15 à Bayonne et 16 à Marseille. Voilà, bon, ce sont des températures également identiques à celles d'hier. Je voudrais quand même dire un petit mot d'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui en ont marre. Justement, nous allons avoir à partir de samedi un beau temps, un temps agréable pour l'automne, samedi, dimanche, lundi, ce sera vraiment sympa, vous pouvez aller sortir, faire des pique-niques, tout ce que vous voulez, mais à partir de mercredi prochain, la pluie revient. Et ça n'engage que moi, mais enfin, il semble que le mois d'octobre soit bien parti. Sachez que le mois d'octobre, dans ses 15 premiers jours, nous avons battu un record de pluie depuis 20 ans, voilà.
Merci beaucoup, Laurent Cabrol.
20 ans avec autant de pluie.
Il est 7h29.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le journal sur Europe 1, il est 7h30.
Ce couvre-feu, il se fera entre 21h
et 6 heures du matin.
Bah à 21h, on s'attendait à un couvre-feu, mais là c'est la douche froide quoi.
Après les annonces d'Emmanuel Macron, le coup de grâce pour les restaurateurs dans les zones d'alerte maximale qui se demandent s'ils vont continuer à servir. Une bonne nouvelle tout de même pour limiter la casse, le chef de l'État promet un coup de pouce financier pour les ménages et les entreprises les plus en difficulté. Couvre-feu, limitation de rassemblement en famille ou entre amis, mais quid de la sphère publique? Parmi les réactions politiques, le PS regrette qu'il n'y ait pas plus d'incitation au télétravail. Et puis le Parlement européen va-t-il repasser la frontière? L'institution pourrait à nouveau s'installer à Strasbourg.
Arrêtons d'avoir peur du Covid ou encore ne laissons pas les médecins gouverner. C'est le message que martèle le philosophe André Comte-Sponville depuis quelques semaines. Son regard sur cette nouvelle séquence de lutte contre l'épidémie, c'est le tête-à-tête Europe Matin juste après ce journal. Confinement, déconfinement et désormais les deux en même temps. L'édito politique de Nicolas Bétou juste avant Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Ce matin, l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Jusqu'à présent, les restaurants avaient réussi à passer entre les mailles du filet pour continuer à recevoir leurs clients. Mais à partir de samedi, en Île-de-France et dans 8 métropoles, il faudra rentrer à la maison à 21h, couvre-feu instauré jusqu'à 6h du matin.
Alors à quoi bon rester ouvert? Carole Ferry a recueilli les premières impressions d'un restaurateur très inquiet.
Sur son téléphone portable, dans un coin du restaurant, Romain Borgo retient son souffle.
Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin.
Bah à 21h, on s'attendait à un couvre-feu, mais là, c'est la douche froide, quoi. Parce que
place maintenant au cœur qui se serre et aux questions qui arrivent en rafale.
Les questions que je me pose, c'est effectivement, est-ce qu'on va rester ouvert le soir? Là, franchement, de but en blanc, je pense non. Du coup, ça implique d'un peu restructurer les équipes. Il y a des prêts en cours, bien sûr, il y a les loyers qui courent. Hein. On est quand même sur des forts loyers à Paris. Ça met une petite boule au ventre. Ça devient un peu dur, quoi. On a fait plein d'efforts et on ne sait pas quand ça va reprendre. Et voilà, quoi.
Mais rapidement, Romain ravale ses larmes et part voir ses équipes.
Bon, est-ce que vous avez entendu le petit discours ou pas? Vous avez écouté? Ça va être compliqué là. Je sais pas ce qu'on va faire pour le service du soir.
On va jamais travailler le soir?
On va jamais travailler le soir, je sais pas.
Alors il attend aussi maintenant le détail des aides promises par le président, mais ce qu'il préférerait, dit-il, c'est travailler.
Et justement, ces aides, Emmanuel Macron en a dévoilé quelques-unes hier soir, destinées aux entreprises en difficulté à cause des nouvelles restrictions, mais aussi aux ménages les plus modestes. Et Olivier Samain, d'autres aides devraient suivre.
Oui, alors il y a d'abord cette annonce d'une aide exceptionnelle qui sera versée pendant les 6 semaines qui viennent aux bénéficiaires du RSA et des allocations logement. Aide de 150 euros qui sera majorée de 100 euros par enfant et qui vise à apporter une réponse, a dit Emmanuel Macron, aux ménages les plus précaires qui tombent dans la pauvreté. Je préfère cette aide exceptionnelle massive à une augmentation des minima sociaux, a ajouté le chef de l'État. Message destiné aux associations de lutte contre la pauvreté qui plaident, elles, pour une revalorisation durable des minima sociaux. Les autres aides dont il a été question hier soir sont celles qui vont bénéficier aux entreprises directement frappées par les restrictions sanitaires. Certaines sont déjà connues. Le chômage partiel financé à 100% jusqu'au 31 décembre ou l'extension du bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises employant jusqu'à 50 salariés. D'autres vont être annoncées sous peu et viseront spécifiquement les secteurs économiques affectés par le couvre-feu.
Outre le couvre-feu, le chef de l'État a aussi demandé aux Français de limiter les rassemblements, pas plus de 6 à table. Port du masque, y compris en famille ou entre amis.
Des mesures dures, mais nécessaires, reconnaît Olivier Faure. Mais le premier secrétaire du Parti Socialiste aurait souhaité que le gouvernement ne se limite pas à la sphère privée.
Moi, j'aurais aimé, par exemple, que sur le télétravail, il y ait une incitation forte. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans une situation où la seule sphère à laquelle on s'attaque, c'est la sphère privée. C'est les moments de convivialité, c'est le restaurant, c'est les spectacles. Et donc, ça va avoir des conséquences lourdes avec des effets que j'espère majeurs, mais que l'on peut craindre, malheureusement, insuffisants compte tenu de ce qu'est la diffusion du virus aujourd'hui.
Olivier Faure, premier secrétaire du PS avec Claudia Bertram, après ces annonces choc, l'heure est maintenant à la pédagogie. Cet après-midi, le gouvernement va préciser le détail de ces nouvelles mesures au cours d'une conférence de presse menée par le Premier ministre Jean Castex.
7h34 sur Europe 1, le monde hospitalier sous tension, l'intersyndicale appelle les soignants à la grève aujourd'hui.
Malgré les plus de 8 milliards d'euros alloués par le gouvernement pour des augmentations de salaire et la création de 15 000 postes supplémentaires, les les soignants réclament un plan Marshall de l'hôpital avec une revalorisation des salaires et des ouvertures de lits pour faire face à la crise. Plus de 200 nouveaux patients ont été admis en réanimation sur la seule journée d'hier. Un jeune homme de 25 ans en garde à vue dans l'Isère, soupçonné du meurtre de Victorine, cette jeune fille de 18 ans retrouvée morte dans un cours d'eau fin septembre. Le suspect ne connaissait pas la victime, il serait passé aux aveux.
Et si le Parlement de Strasbourg siégeait à Strasbourg?
Et oui, cela fait 7 mois que la ville est privée des sessions parlementaires à cause du coronavirus. Sauf que la situation sanitaire évolue, Bruxelles vire au rouge écarlate alors que le Grand Est continue de s'en sortir pas trop mal. Cela réjouit l'économie strasbourgeoise, Arthur Mbaché.
Ça s'agite dans la boîte mail du bouclier d'or.
Donc on en a un, deux, on en a reçu trois, quatre hier.
Tout arrive, des eurodéputés réservent des nuits d'hôtel à Strasbourg. Première fois depuis février. En temps normal, Déborah Hunt, la patronne, leur réserve tous les mois au moins 16 de ces 22 chambres.
Voilà, nous on répond bien sûr, on est bien content de vous recevoir. Mais ils se gardent le droit d'annuler jeudi à midi. Sans condition, dès lors qu'on apprendra que la session est annulée.
Dites pas ça.
Non, bien sûr, on y croit, on va dire qu'on y croit aujourd'hui.
En cas de retour en Alsace, ça pourrait être en version allégée, avec par exemple un seul assistant par eurodéputé. C'est déjà ça, dit Roger Sangel, le représentant des restaurateurs et des hôteliers.
Vous annulez une session parlementaire à Strasbourg, tous les étrangers qui avaient réservé en Alsace, la plupart ont annulé. Ils ont dit, il y a un problème à Strasbourg, puisque le Parlement n'y va pas, c'est qu'il y a un problème. Le Covid n'a rien à voir, puisque nous sommes dans une zone où il n'y a pas de pression, où nous ne sommes pas en zone rouge écarlate. Hein. Ben, aux touristes étrangers, j'ai dit, si vous avez bien entendu que la session se tient à Strasbourg, c'est donc que tout va bien, ne vous gênez pas, revenez.
Fumée blanche attendue dans la journée. Strasbourg, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et puis le foot avec la Ligue des Nations. Petite victoire des Bleus hier soir contre la Croatie de Buzyn. L'équipe de France qui reste malgré tout en tête de son groupe.
Merci Sophie Echen, 7h36 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Rachida Dati, invitée politique de la matinale, réaction de l'opposition après les annonces d'Emmanuel Macron. Le couvre-feu à Paris, bien sûr, c'est la maire du 7e arrondissement. Les questions de sécurité et de réponse pénale aussi avec l'ancienne garde des Sceaux. Rachida Dati répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Mais tout de suite, doit-on arrêter de vivre par peur du Covid? Va-t-on sacrifier l'avenir de nos enfants à la santé de leurs grands-parents? Ces questions que se pose le philosophe André Comte-Sponville. Ses réponses, surtout, après l'interview du président de la République. Le tête-à-tête Europe Matin dans une minute.
Europe Matin, le 7-9.
Europe 1, il est 7h39. J'espère bien que dans 200 ans, plus personne ne pensera au Covid, mais j'espère bien aussi que dans 200 ans, on lira encore Montaigne. Inquiet pour la jeunesse, inquiet pour nos libertés, l'auteur du dictionnaire amoureux de Montaigne est mon invité, en direct, en studio, le philosophe André Comte-Sponville.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Quelle drôle d'époque nous vivons.
Oui, quelle drôle d'époque. Les jeunes qui ont le moral aujourd'hui ont bien du mérite.
Alors je voudrais tenter un exercice avec vous. Nous dialoguons, vous et moi, le philosophe et le journaliste, et nous allons essayer de faire dialoguer le président de la République et l'auteur, Montaigne, à travers des concepts développés, des idées développées dans ce dictionnaire amoureux de Montaigne. Plusieurs réflexions, notamment sur la peur. Je suis parti chercher le mot « chute » chez vous. En l'occurrence, le mot « chute » où vous expliquez qu'il lui est la chute pour Montaigne. Il lui est plus insupportable, la peur de tomber, explique-t-il, il lui est plus insupportable que le désagrément d'être à terre.
Oui, c'est Montaigne écrit aussi « ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». C'est une formule qui résume assez bien mon état d'esprit depuis plusieurs mois. Il va de soi que la Covid-19 est un problème sanitaire tout à fait sérieux, mais la montée de cette peur dans la société, dans les médias, chez les politiques, pour une maladie dont il faut rappeler qu'elle reste malgré tout le plus souvent bénigne, le taux de mortalité, ça a été rappelé par le président, est de 0,6%, c'est quand même pas beaucoup. Et encore, c'est les chiffres de l'OMS. En France, c'est plutôt entre 0,3 et 0,5.
Mais vous comparez à la peste
hein, qu'a connu Montaigne, où le taux de mortalité était proche de 100%. Ça veut dire que la Covid-19 est à peu près 200 fois moins mortelle que la peste. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas affronter la chose. Alors, un mot malgré tout sur le discours du président de la République. Écoutez, honnêtement, dans la forme, je l'ai trouvé très bon. Très clair, très, très pédagogue, très humain, et je ne doute pas de sa sincérité. Sur le fond, est-ce que la mesure du couvre-feu sera efficace? Écoutez, on verra, c'est pas mon domaine d'expertise, mais bien sûr qu'il faut éviter que nos services d'urgence et de réanimation soient débordés. Cela dit, ça ne lève pas mon inquiétude. L'inquiétude que j'ai, c'est quoi? c'est qu'on soit en train de sacrifier une génération, voire deux générations, les enfants, les adolescents d'un côté, les jeunes adultes de l'autre, à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et ça, je trouve que c'est tout à fait inquiétant. Et si vous me permettez une réflexion, il faut protéger les plus vulnérables, dit-on. Bien sûr, on a raison. Sauf que si on ne parle que de santé, ce que j'appelle le pan médicaliste, tout sacrifié à la santé, les plus vulnérables, ce sont les plus vieux. Par définition, on est davantage malade après 65 ans qu'avant. Oui, mais sur le fond et à l'échelle d'une vie, qui sont les plus vulnérables? Moi, je dis, ce sont les jeunes. Prenons par exemple le risque de mourir jeune. Moi, je ne risque pas du tout de mourir jeune, j'ai 68 ans.
Vous êtes épargné désormais.
Vis-à-vis de la mort jeune, je suis invulnérable. Le risque du chômage, je ne risque pas du tout d'être au chômage, je suis à la retraite. Vis-à-vis du chômage, je suis invulnérable. Le réchauffement climatique, dans 30 ans, je serai mort. Ça ne me concerne plus, je suis invulnérable.
Aujourd'hui, les jeunes
sont exposés à la mort prématurée, ils sont exposés au chômage, ils sont exposés au réchauffement climatique. Et donc, si on fait de la santé l'alpha et l'oméga de tout, les vieux sont prioritaires. Ce qui est une inversion invraisemblable de la solidarité intergénérationnelle ordinaire qui veut que les parents se sacrifient pour leurs enfants, bien plus bien sûr que les enfants ne se sacrifient pour leurs parents. Si bien que, quoi qu'on pense du discours de Emmanuel Macron, qu'encore une fois j'ai trouvé bon, et dans la forme et même dans le fond, un peu moins anxiogène que beaucoup,
Pardonnez-moi, André Comte-Fonville, ce couvre-feu, le retour de l'attestation de circulation, avoir besoin d'un papier pour sortir entre 21h et 6h du matin, tout ce travail autour de la liberté et des privations de liberté, ça vous allait hier soir ?
Disons que ça me réjouit pas. Ce sont effectivement des mesures restrictives de nos libertés et souhaitons que ça ne dure pas trop longtemps. Malgré tout, en même temps, c'est quand même moins contraignant que le confinement. C'était une espèce d'assignation à résidence en permanence. Bon, ne pas pouvoir sortir après 21h, c'est bien dommage. Ça sera une catastrophe pour les restaurateurs, les théâtres, etc. Mais c'est quand même moins grave que le confinement. La vraie question, c'est combien de temps ça va durer ? Est-ce qu'on va sacrifier une génération, deux générations et pendant des années, peut-être des décennies, là encore, à la de leurs parents ou de leurs grands-parents.
C'est ce discours, cette idée de vivre avec le Covid, de s'habituer à vivre avec le Covid qui vous dérange le plus finalement. Là, on parle de l'été 2021, mais on sait que les conséquences seront plus longues.
Non, moi, je pense qu'il faut vivre avec le Covid, mais si ça doit durer, là, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais on ne peut pas sacrifier indéfiniment les libertés à la santé des plus fragiles, et en l'occurrence des plus vieux. La santé est un grand bien, on ne peut pas faire de la santé la valeur suprême.
La santé est un bien, pas forcément une valeur en l'occurrence. Vous avez utilisé un mot, le pan-médicalisme. Et en vous lisant, je découvre que Montaigne n'était pas forcément très fan des médecins qui connaissent mieux la médecine que le malade, si je résume. On n'a plus les mêmes aujourd'hui.
Non, bien sûr, on a une grande chance d'avoir de bien meilleurs médecins que ceux de Montaigne. Les médecins de Montaigne, c'est les médecins de Molière, en vérité, empire, parce que c'est un siècle plus tôt. Non, nous avons une chance formidable, c'est que la médecine a fait d'énormes progrès. Nous avons des médecins très, très compétents, très, très efficaces. Ça n'est pas une raison, et c'est là où Montaigne attirer notre attention, ça n'est pas une raison pour déléguer aux médecins la gestion de toute notre vie et de nos sociétés. Qu'on délègue à la médecine la gestion de nos maladies, bah oui, c'est normal, mais nous ne sommes pas toujours malades, nous ne nous réduisons pas au statut de patients, nous sommes des citoyens. Et préserver notre liberté de citoyen, c'est au moins aussi important que préserver notre santé.
Alors justement, cette notion de liberté, et là aussi je vous citerai, vous qui citez Montaigne, la nature nous a mis au monde libres et délivrés. Et quand je regarde ensuite l'entrée politique, le terme politique, vous expliquez à quel point il faut vivre en société, nous sommes faits pour vivre en société. Est-ce que c'est compatible tout ça, ma liberté, ma possibilité de porter un masque ou non, et finalement le besoin de protéger les autres sans revenir forcément sur la solidarité intergénérationnelle?
Oui, parce que Montaigne, qui est le plus libre des esprits libres, nous apprend que la règle des règles, c'est d'obéir aux lois de son pays, comme il dit, et donc Montaigne obéirait, il porterait le masque, il respecterait le couvre-feu, mais à condition de garder son esprit libre. Montaigne écrit joliment « Ma raison n'est pas faite pour se plier. Ce sont mes genoux. » Autrement dit, quand Montaigne salue le roi, et lui préfère la République mais vit en monarchie, ça ne le gêne pas de se mettre à genoux devant le roi, à condition que la raison, elle, ne se plie pas, à condition qu'on ne soumette pas son esprit ni au pouvoir, ni à ce que j'appelle maintenant le sanitairement correct, qui est l'équivalent du politiquement correct, mais en matière de santé. Et je suis très, très frappé de voir qu'il y a des choses qu'on n'a plus le droit de dire parce que ça risque de blesser soit les malades, soit les soignants. Par exemple, j'ai choqué en disant disant au moment du confinement que ça allait coûter terriblement cher et que c'était les jeunes qui allaient en payer le prix. Ça a choqué parce que j'osais parler d'argent en matière de santé. Mais soyons sérieux, on ne va pas augmenter les dépenses médicales en ruinant notre économie. La médecine coûte cher, elle a donc besoin d'une économie prospère. Et donc s'inquiéter de l'économie, c'est pas contre la santé, c'est pour la santé. J'ai choqué aussi en disant que tous les êtres humains sont égaux en droit et en dignité, mais que toutes les morts ne se valent pas. Il est évidemment plus triste de mourir à 20 ou 30 ans que de mourir à 60 ou 70 ans. Un nouveau scandale, il veut laisser les vieux mourir sans soins. Il en était bien sûr pas question, ce n'est pas ce que je disais. Vous voyez, mais cette pression du sanitairement correct qui prétend non seulement nous faire obéir à la loi, ce qui est normal, mais diriger notre parole et notre pensée, là, il y a une véritable inquiétude. Et donc Montaigne nous rappellerait que la santé est un grand bien, mais que la liberté de l'esprit est un bien encore supérieur.
Un texte extrêmement moderne, hein, quand on redécouvre Montaigne, ce dictionnaire amoureux de Montaigne, André Comte-Sponville. Mais simplement pour terminer, vous avez beaucoup parlé des jeunes. Est-ce que vous pourriez leur parler à eux, aux jeunes, ce matin simplement ? On dit que c'est dur d'avoir 20 ans aujourd'hui. On les prépare à une vie où il faut avoir fini entrée plat dessert avant 20h30 finalement, voir des amis par 5-6 uniquement. Peut-être être célibataire ces dernières semaines. La période qui arrive sera dure.
Oui, le président a le mérite de le reconnaître. C'est pas drôle d'avoir 20 ans en 2020. Et si j'avais un mot à leur dire, d'abord, c'est bon courage. Je leur présenterais presque volontiers les excuses de ma génération, les baby-boomers qui ont eu tellement de chance et qui font peser tellement de charges sur des jeunes qui en ont beaucoup moins. Et puis, je leur dirais, ne vous laissez pas faire. Obéissez à la loi. Un démocrate doit obéir à la loi. Mais ne vous laissez pas faire. Ne sacrifiez pas toute votre vie à la santé de vos parents et de vos grands-parents. Le but de la vie, ça n'est pas la santé, c'est d'abord la vie elle-même, c'est le bonheur, c'est la liberté. Et donc, résister au pan-médicalisme, résister au sanitairement correct, résister à l'ordre sanitaire qui nous menace.
André Comte-Sponville, merci beaucoup. C'est chez Plon, le dictionnaire amoureux de Montaigne, et on est presque à un demi-millénaire de Montaigne aujourd'hui. C'est parfois dur à lire du Montaigne. Alors, commencez par ce dictionnaire justement, parce que les idées sont extrêmement modernes. André Comte-Sponville, merci beaucoup.
Merci à vous.
Il est 7h48. Vous restez bien sur Europe 1, la guerre contre le Covid, et je vous le disais, après le confinement et le déconfinement, cet acte 3, celui du en même temps, l'édito politique de Nicolas Bétou.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 7h51.
Tout de suite, retrouvez l'édito politique avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
L'édito politique de Nicolas Bétou, tous les matins. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Emmanuel Macron a lancé hier soir sa nouvelle bataille contre le Covid.
Oui, et d'abord un mot sur la prestation du chef de l'État. Je l'ai trouvé clair, précis, pas emphatique, sans envoler les lyriques, comme il aime pourtant le faire en général. Non, là, c'était concret et plus court que d'habitude. Et d'ailleurs, bravo le match de foot à 20h45. On devrait toujours mettre un match international après une émission politique. Ça éviterait qu'elle tire en longueur. Et ce n'est pas une anecdote, hein. Le message, parce qu'il était simple et minuté, en a beaucoup gagné.
Le plus frappant, c'est bien sûr le couvre-feu.
Oui, c'est la mesure choc pour 20 millions de Français et aussi un symbole de la gravité de la situation pour les 45 millions d'autres. Alors bien sûr, on pourrait dire que c'est une sorte de retour vers le futur, une nouvelle saison du confinement. En réalité, ce n'est pas ça du tout. On est entré hier dans une troisième phase de la bataille contre le Covid. On avait eu la fermeture totale du pays, jour et nuit, pendant les 10 semaines du confinement, avec des dégâts invraisemblables sur l'économie et l'emploi. On avait eu ensuite ce que le chef d'État avait lui-même appelé le retour des jours heureux, avec l'insouciance des vacances, la liberté de l'été, avec des dégâts que l'on mesure concrètement sur la propagation du virus aujourd'hui. Eh bien, Emmanuel Macron ne pouvait pas refaire l'un, la fermeture, ni perpétuer l'autre, la vie ordinaire, d'où la recherche d'une solution intermédiaire.
Oui, intermédiaire, c'est une sorte de d'en même temps, donc, mais entre quoi et quoi ?
Eh bien, entre responsabilisation et refus de l'infantilisation, entre le quoi qu'il en coûte et le vivre avec le virus. Tenez un exemple. Vous vous souvenez du mot d'ordre rabâché sur tous les tons à longueur de journée pendant le confinement, la fameuse injonction « restez chez vous ». Eh bien là, c'est l'inverse. Il serait disproportionné de reconfiner, a dit le chef de l'État à plusieurs reprises. L'objectif, c'est que tout le monde aille travailler, que la vie économique continue, parce que le pays en a besoin. Changement complet de posture. Même chose sur les règles données aux familles. Emmanuel Macron parle de recommandations, la règle des 6, en comptant sur la responsabilité des gens pour modifier le cours de leur vie. On interdit beaucoup moins, on sensibilise beaucoup plus.
Au total, ça va tout de même une nouvelle fois nous coûter très cher, Nicolas.
Ben oui, il va falloir indemniser les secteurs qui vont être à nouveau fracassés par le couvre-feu. Il va falloir essayer de sauver les emplois qui seront fragilisés. L'État va encore déverser des aides, des milliards probablement. Mais contrairement à ce que demande la gauche, par exemple, les nouveaux coups de pouce, je pense aux APL ou aux RSA, resteront provisoires. Avec cette philosophie politique rappelée par Emmanuel Macron, je ne perds pas de vue que la solution pour sortir de la crise, c'est le retour au travail. Voilà, responsabilité, primauté du travail sur l'assistanat. Il y avait bien, hier soir, un message politique derrière le sanitaire.
Merci Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion, votre édito tous les matins, juste avant 8h.
C'était l'édito politique avec Chronopost. Chronopost, le partenaire des PME françaises à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr.
Et tous les matins, à 8h15, nous retrouvons Nicolas Canteloup qui coach à sa manière l'invité politique de la matinale. Ce matin, Sonia Mabrouk reçoit Rachida Dati, maire Les Républicains du 7e arrondissement de Paris, ancienne garde des Sceaux, ancienne eurodéputée. Et Anne Hidalgo voulait lui donner un petit conseil.
Oui, voilà, monsieur Bétou des pastilles. Oui, pardon. Oui, monsieur Béliard, monsieur Cabrol, bonjour à toutes les Parisiennes et tous les Parisiens qui entament le premier jour de leur future 6 semaines de dépression. Permettez-moi de dire un petit mot compatissant à Rachida Dati qui ne pourra pas faire les nocturnes des Galeries Lafayette et de Saint-Laurent pendant près de 6 semaines. Mais c'est dans l'intérêt de la nation, madame, vous l'aurez compris.
Madame Hidalgo, s'il vous plaît, soyez un peu courtoise.
Ouais. Oui, pardon, excusez-moi. En tout cas, je déconseillerais à Rachida Dati de se lancer en 2022. Moi, franchement, je n'ai plus envie d'y aller. La France n'a plus besoin d'une présidente, nous l'avons compris. Elle a besoin d'une concierge. Il faut la fermer à 21h et l'ouvrir à 6h. C'est facile.
Pardon. Excusez-moi, je m'immisce. Oui, j'adore m'immisquer.
Monsieur Sarkozy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Bétou. J'avais juste un petit conseil pour mon ami Rachida. Rachida, je sais que tu veux te lancer pour 2022. J'ai l'expérience. Écoute, pour ta campagne, tu as besoin de sous. Si des gens venus de je ne sais où, de Libye, par exemple, te proposent des choses, tu dis non. Hein? Crois-moi, c'est que des emmerdes. Ça peut te gâcher la vie. 10 ans, moi, j'en peux plus. Ça fait 8 jours qu'on ne parle que de ça. Non, si tu veux financer ta campagne proprement, plus c'est facile pour toi. Tu vends 2-3 sacs à main, 2-3 robes, ça te fera déjà vite 20 millions d'euros, ça sera largement suffisant. Allez, bon courage à tous pour cette nouvelle période.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Rachida Dati, à 8h15, la maire du 7e arrondissement, ancienne garde des Sceaux, au micro de Sonia Mabrouk. Merci Nicolas, à tout à l'heure, 8h45 pour la revue de Presque. 7h59, Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Et je ne parlerai pas de journée pluvieuse, de journée... je parlerai simplement d'une journée maussade, nuageuse, humide. Ça suffira largement. Alors pratiquement toutes les régions sont sous les nuages ce matin, on peut dire. Et dans l'après-midi, tel un ovni, le soleil apparaîtra. Parfois sur le nord, la région parisienne, la vallée de la Loire, la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine et le Midi-Pyrénées. Mais partout ailleurs, ce sera un ciel très couvert avec des températures qui ne changent pas, entre 10 et 15 degrés. Voilà.
Merci beaucoup, voilà. Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour François Geffrier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1, écoutez le monde changer. Il est 8h.
On nous punit de vivre, on nous empêche de vivre notre jeunesse à fond. C'est plutôt injuste en fait.
Injuste ou nécessaire, le couvre-feu va s'abattre dès ce week-end sur 20 millions de Français. Une sorte de reconfinement nocturne à l'épreuve des comportements individuels. Les dîners limités à 6 personnes, mais vous l'entendrez, des étudiants tenter de prolonger leur soirée jusqu'à 6h du matin. Les restaurateurs dénoncent déjà une fermeture déguisée de leur profession. On entendra le coup de gueule du chef cuisinier Olivier Rollinger, tandis que dans le monde culturel, on envisage des concerts symphoniques en fin d'après-midi. Dans ce journal, les syndicats de policiers reçus ce matin à l'Elysée, en présence d'Éric Dupond-Moretti. Et puis pas de saison 6 du Bureau des Légendes, mais une série dérivée dont les détails sont pour l'instant de l'ordre du secret défense.
Le couvre-feu, l'impact économique, la nouvelle phase de lutte contre le Covid, mais aussi le malaise chez les policiers reçus donc par le président. L'ancienne garde des Sceaux, maire du 7e arrondissement de la capitale, Rachida Dati, au micro de Sonia Mabrouk à 8h15. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Cette fois, il n'a pas parlé de guerre, mais le vocabulaire reste martial. La nouvelle bataille, la stratégie qui doit monter en puissance et bien sûr, le couvre-feu nécessaire pour 30% de la population française. Alors que les chiffres continuent de se dégrader, 33 000 morts dans le pays depuis février, une centaine de plus hier et un tiers des lits de réanimation déjà occupés par des patients Covid.
Au-delà des mesures restrictives annoncées par le président de la République, on est frappé par son appel plus fort encore que d'habitude à la solidarité et donc à la responsabilité.
Freiner le virus, c'est aussi protéger ma santé. Parce que si je ne le freine pas, demain, si j'ai autre chose, ma mère, mon père, ma sœur a autre chose, il n'y aura plus de place pour le soigner.
Emmanuel Macron, hier soir sur TF1 et France 2, on va détailler les conséquences du couvre-feu dans un instant. Mais d'abord, Anne Le Gall, à l'échelle de tout le pays, le président appelle chacun à faire un effort dans son environnement privé.
Oui, alors évidemment, ces consignes ne vont pas figurer dans les décrets et les règlements, mais si durant les vacances, on veut se rassembler en famille, en présence d'une personne âgée ou fragile, alors il faudra porter un masque ou se tenir à distance. Les gestes d'affection sans aucune précaution ne sont plus adaptés à l'époque que nous vivons, a expliqué Emmanuel Macron. De façon générale, le port du masque, même avec les proches, l'aération des pièces 3 fois par jour ou encore le respect de la règle des 6 convives à table au maximum quand on reçoit du monde. Ce sont les nouveaux réflexes à acquérir au quotidien, a indiqué le chef de l'État. Car même si ces fêtes privées ou ces repas de famille ne durent qu'une heure ou deux, ils sont à l'origine d'un quart des clusters. Le Covid est un virus de la convivialité, notamment chez les plus jeunes, expliquent les épidémiologistes. Et c'est pour cela que pendant quelques temps, il va falloir que tout le monde accepte de se voir en plus petit comité.
Les précisions d'Anne Le Gall pour Europe 1.
Je cite les documents officiels. Le couvre-feu va donc commencer samedi à 0h, autrement dit vendredi soir minuit.
À Lille, Grenoble, Lyon, Montpellier, Rouen, Toulouse, Saint-Étienne et Aix-Marseille, ainsi qu'en Île-de-France, chaque soir, de 21h à 6h, et ce pendant 4 semaines, le Parlement sera sollicité pour le prolonger jusqu'au 1er décembre. Retour des amendes de 135 €, retour aussi des attestations dérogatoires de déplacement.
Le président l'a dit, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Il faut dire que les jeunes font partie des publics ciblés par cette mesure.
Mais ce ne sera pas simple à respecter, comme on va le voir avec ce reportage de Roman Oquet à la Cité universitaire de Paris.
Je ne vais pas rester seule chez moi tous les soirs. Je suis fatiguée, j'en ai un peu marre. Quoi.
Le couvre-feu, Anna ne peut même pas l'envisager. Une fenêtre, un lit, un bureau, sa chambre d'étudiante, elle y a déjà passé le confinement.
Cet appartement, il fait quoi en surface à peu près ?
14 mètres carrés, je crois. On habite loin de chez nous. Dans notre petite chambre, on est tout seul. Alors c'est plus possible, quoi. On a besoin de parler, on a besoin de s'amuser, on a besoin de changer les idées.
À la résidence, le chacun chez soi n'existe pas. Camille nous fait visiter la cuisine commune, qui même à 22h se remplit d'étudiants affamés.
Bah là, juste en 2 minutes, on a déjà rencontré 4 personnes qui sont venues dans la cuisine sans masque.
Dans le couloir, des dizaines de portes d'appartements. Derrière certaines, les voisins se retrouvent. Camille temporise. Selon elle, le couvre-feu risque justement d'encourager ces soirées.
Nous donner plus de restrictions, on se retrouvera encore plus dans le privé chez nous. Dans un 15 mètres carrés, si c'est pour avoir 20 personnes, on le fera. Il n'y a jamais personne qui va venir vérifier si on respecte bien tout ça.
Et c'est pour ça que Camille a maintenu son invitation. Une dizaine d'amis conviés chez elle samedi soir.
Les soirées privées donc, les étudiants et bien sûr les restaurants, eux aussi vont être très touchés par ce couvre-feu.
Et je voudrais vous faire écouter ce cri du cœur du grand chef cuisinier Olivier Rollinger. C'était ce matin sur Europe 1, un peu plus tôt, au micro de Sébastien Krebs.
C'est un coup de grâce pour l'ensemble de la profession. Ce n'est pas une fermeture cette fois obligatoire, mais c'est en réalité une fermeture obligée ou contrainte. Une fois de plus, la profession sert de marqueur politique du tournevis à donner dans une contrainte.
Il ne sera pas possible pour les restaurants, par exemple, de faire dîner les clients aux alentours de 19h ?
Tous les gens ne sont pas en vacances et en retraite. Les gens aussi, ils ont un travail, ils ont une vie sociale, ils ont leurs enfants à aller chercher. La vie fait que on va pas tous nous lever à 6h, aller au travail à 7h et ensuite aller dîner à 18h. Je veux dire que ce que vont faire les gens, plutôt que d'aller au restaurant dans des lieux parfaitement encadrés, ils vont aller dîner et coucher les uns chez les autres. Monsieur le Président, vous avez salué la prise en charge de l'ensemble des cuisiniers et des cuisinières de France. mais laissez-nous travailler.
Le chef Olivier Rollinger, qui était l'invité d'Europe 1 à 6h40.
Pour les restaurateurs et toutes les professions touchées, Emmanuel Macron évoque de nouvelles aides qui seront annoncées sous peu, en plus du chômage partiel pris en charge à 100% par l'État. On en saura peut-être un peu plus tout à l'heure à 14h, conférence de presse de Jean Castex et de plusieurs de ses ministres. Pour les particuliers qui touchent des APL ou le RSA, une aide de 150 euros est prévue, plus 100 euros par enfant.
Il ne faudrait pas oublier le monde du sport. Les matchs professionnels pourront avoir lieu, mais à huis clos, ainsi que le secteur de la culture.
Mais oui, pas de séance de ciné, pas de représentation au théâtre ou de concert en soirée dans les zones du couvre-feu. Il va falloir innover, comme y réfléchit le directeur de la Philharmonie de Paris, Laurent Bell.
21h, c'est très problématique parce que c'est pas 21h la fin du spectacle, c'est 21h, imaginez que le public soit chez lui. Si nous pouvons conserver certains concerts à 18h30, est-ce que le public sur Paris peut suivre cette offre? Je n'en suis pas sûr. Et puis, nous essayerions de voir comment le week-end en journée, nous pourrions réorganiser la programmation pour assurer peut-être plusieurs concerts par jour en journée, le samedi et le dimanche.
Laurent Bell avec Angèle Châtelier pour Europe 1. Dernière annonce, l'application Stop Covid, dont une nouvelle version enrichie en informations sur le virus, sortira dans une semaine, s'appellera Tous Anti-Covid.
8h07 sur Europe 1. Une information Europe 1 ce matin. Le mode de transport qui a le plus progressé depuis le confinement, c'est la marche à pied.
Oui, plus 200% selon des millions de données compilées par l'entreprise Kizio. En revanche, tout mode de transport confondu, les déplacements sont en baisse de 15%. Aux États-Unis ce soir, concurrence de chaînes de télé. Donald Trump sera sur NBC, Joe Biden sur ABC. Ils répondront à des électeurs en direct à la même heure, mais chacun de son côté. Le débat prévu ayant été annulé, ce sera à qui fait la meilleure audience.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un tout petit instant. Des policiers à l'Elysée reçus par Emmanuel Macron.
Et puis vous reconnaissez la musique, le bureau des légendes, des espions dans votre salon. Cette série n'a pas complètement refermé ses portes.
A tout de suite, il est 8h08.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h09, la suite du journal, François Geffrier.
Trois attaques en une seule semaine, deux policiers grièvement blessés par balle à Herblay, un autre renversé par une voiture à Savigny-sur-Orge et des feux d'artifice projetés contre le commissariat de Champigny-sur-Marne. Voilà pour le contexte grave de la rencontre ce matin entre les syndicats de policiers et Emmanuel Macron.
Guillaume Bielle, le ministre de l'Intérieur, mais aussi celui de la Justice seront présents à l'Elysée.
Oui, Éric Dupond-Moretti sera bien là tout à l'heure aux côtés du chef de l'État. Alors, ce n'est pas un invité surprise, c'est au contraire le cœur du sujet, car en fait, les représentants des syndicats de police qui réclamaient des moyens, effectifs, matériels, primes, ont eu largement gain de cause avant-hier auprès du ministre de l'Intérieur. S'ils sont reçus à l'Élysée, c'est pour aller au-delà, pour obtenir le soutien ferme du président et surtout évoquer la réponse pénale apportée aux agressions contre les forces de l'ordre. Les peines encourues sont déjà lourdes, mais les condamnations prononcées ne sont pas assez dissuasives aux yeux des syndicats de police. D'où la présence ce matin du ministre de la Justice, qui recevra lui aussi les syndicalistes policiers à la chancellerie dans quelques jours. Preuve d'une volonté d'ouverture et un vrai paradoxe pour Éric Dupond-Moretti, qui va donc nouer le dialogue avec les syndicats de police au moment où les syndicats de magistrats, eux, lui tournent quasiment tous le dos.
Oui, Guillaume Biet, du service police-justice d'Europe 1.
Dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin, la juge d'instruction Sabine Kéris organise aujourd'hui un déplacement sur les lieux.
À Guermantes, en Seine-et-Marne, 17 ans après les faits, ce sera à la tombée de la nuit ce soir en présence de Monique Olivier et surtout de Michel Fourniret, qui a reconnu, je cite, avoir ôté la vie de la petite fille qui avait 9 ans en 2003.
On termine ce journal avec une nouvelle qui réjouira les fans du Bureau des Légendes.
Éric Rochant, son créateur, a confirmé hier que tout n'était pas terminé pour cette série d'espionnage. Mathieu Charrier.
Il n'y aura pas de saison 6 du Bureau des Légendes. Éric Rochant l'avait laissé entendre en avril dernier au moment de la diffusion de la saison 5. Il l'a confirmé hier lors d'une masterclass au festival Cannes Série. En revanche, et c'est la bonne nouvelle, un spin-off ou reboot est en cours d'écriture, c'est-à-dire une série dérivée de l'univers que l'on connaît, dans l'esprit et la philosophie du Bureau des Légendes, précise le showrunner, avec même les personnage du Bureau des Légendes, ce qui laisse entendre que Malotru, incarné par Mathieu Kassovitz, serait de la partie. Joint hier soir, l'acteur préfère rester mystérieux.
Je n'ai aucune nouvelle.
Vous n'êtes pas reparti sur une aventure ou...
Il faut écouter ce que dit Eric.
Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas Jacques Audiard qui planche sur ce projet, le réalisateur très contesté des deux derniers épisodes de la saison 5. Mais une autre équipe est au travail, confirme Eric Rochand.
Mathieu Charrier en football, 2-1 pour les Bleus hier soir contre la Croatie en Ligue des Nations grâce à Griezmann et Mbappé. Le capitaine Hugo Loris le dit, je crois qu'il y a une mentalité de gagnant dans cette équipe de France.
Merci François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Et nous retrouvons Sonia Mabrouk et son invité. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Il y a quelques mois, on se demandait où sont les masques. Il y a quelques semaines, on s'interrogeait où sont les tests. Aujourd'hui, où sont les lits de réanimation. Et puis le couvre-feu, c'est la faute aux Français. Invité Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris et ancienne garde des Sceaux dans quelques instants.
A tout de suite, il est 8h13.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'invité politique d'Europe Matin, votre invité Sonia Mabrouk, c'est l'ancienne garde des Sceaux, Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de Paris.
Et ancienne garde des Sceaux, bienvenue à vous et bonjour Rachida Dati.
Bonjour.
Le couvre-feu, c'est la faute aux Français? On n'a pas été assez responsables et disciplinés?
Comment veut-on dire ça, Madame Mabrouk? Toutes les mesures qui ont été imposées aux Français ont été respectées par le Français. Et la première d'entre elles, qui a été une mesure très attentatoire à toutes nos libertés, qui a été le confinement total. Les Français ont respecté toutes les mesures qui leur ont été imposées. Alors, respecter les mesures, ça ne veut pas dire forcément adhérer aux mesures du gouvernement. Moi, je ne crois pas que les Français aient confiance dans le gouvernement, adhèrent aux mesures qui sont annoncées. Pourquoi ? Parce que le gouvernement paye aujourd'hui très cher ses fautes originelles.
Lesquelles ?
Les premières, les masques. Rappelez-vous, il ne fallait pas de masque, il fallait continuer de vivre et vivre avec ce virus. Il fallait même sortir. On nous a dit surtout pas de masque et encore moins de masque à l'extérieur. La doctrine a changé. Ensuite, sur le test, on a dit, oui, maintenant on a les masques, donc maintenant on va passer au test pour pouvoir tracer et isoler quand les personnes sont dites positives. Aujourd'hui, le problème en France, c'est que contrairement à l'Italie ou l'Allemagne, où la deuxième vague a été beaucoup mieux anticipée, qu'ont fait les gouvernements. Les dépistages ont été très ciblés. Très ciblé. Aujourd'hui, on a un dépistage massif en France. Donc déjà, on a des durées de rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous, c'est très long. Pour avoir le résultat, c'est très long.
Mais c'est à cause de tout cela qu'on a un couvre-feu.
On a des carences.
Madame Dati.
On a effectivement des manques de réactifs ou d'écouvillons. Et puis aujourd'hui, comme le dépistage est massif, qu'on n'a pas ciblé, donc on a du mal à tracer et isoler. Donc c'est pour ça que l'épidémie circule très vite. D'ailleurs,
la question, est-ce que c'est que les décisions politiques, à cause de ce que vous décrivez, que selon vous, ce couvre-feu a été décidé pour une très grande majorité de Français?
En fait, la seule vision, le seul outil que ce gouvernement fait fonctionner, c'est ouverture-fermeture. Aucune vision. Vous ne croyez pas que toute cette période aurait pu être mise à profit, comme l'ont fait d'autres pays, pour augmenter le nombre de lits de réanimation, pour pouvoir former du personnel, recruter du personnel, notamment du personnel de santé, qui est aujourd'hui épuisé, exsangue. On aurait pu adapter, comme nous l'avons fait dans d'autres, comme il a été fait dans d'autres pays, adapter les écoles en mode Covid, les universités sont des clusters.
Alors la jauge a été baissée, pas suffisamment selon vous ?
La jauge, elle a été baissée, mais comme pour les acteurs économiques, les étudiants sont totalement abandonnés. C'est-à-dire qu'on leur dit, ok, on descend à 50%, qui a le droit de venir en cours ? C'est donc qu'ils font le coup de poing tous les matins pour pouvoir accéder aux cours ? De la même manière, les acteurs économiques, ils découvrent hier soir qu'il y aura un couvre-feu. Je pense aux restaurateurs, aux bars, aux acteurs de la culture qui, depuis des mois, s'adaptent, proposent.
Certes, mais est-ce que les amortisseurs sont là, Rachida Dati ? Le chômage partiel à plein réactivé pour tous les secteurs de la restauration et autres. De nouveaux délais pour les prêts garantis par l'État. Est-ce que c'est à la hauteur des défis et des catastrophes annoncées ?
Non, mais un prêt garanti, quand vous n'avez plus de clients, quand vous n'avez plus d'activité, le prêt, ça se rembourse à un moment donné. Donc, certains ne veulent même plus prendre le risque de prendre des prêts parce qu'il n'y a plus d'activité économique. Les acteurs économiques, les acteurs de la culture sont totalement abandonnés à leur sort. Ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas suivis. On ne les rencontre même pas.
Le quoi qu'il en coûte n'est pas encore à l'œuvre.
Mais, vous connaissez les acteurs économiques que vous recevez sur votre plateau. Est-ce qu'ils ont été reçus? Est-ce qu'ils ont été prévenus? Est-ce qu'on a anticipé avec eux? Même les annonces hier du président de la République, il dit pendant 6 semaines couvre-feu. Pour quelle perspective ? Il faut donner des perspectives
tout
aux Français.
Si dans six semaines, ça ne marche pas, si vous avez compris ce qui peut se passer dans six semaines.
Les acteurs économiques, pas plus.
Mais vous vous doutez, Madame Dati, ce sera un reconfinement
et
si
là,
ça ne marche pas.
Aujourd'hui, vous savez, nous sommes le 15 octobre, c'est la journée de la fête des entreprises. C'est la journée dite « j'aime ma boîte ». Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être aux côtés des salariés, des entreprises et dirigeants d'entreprises qui nous permettent que ce pays, que la France, ne s'effondre pas.
Mais très concrètement, qu'est-ce que vous auriez fait de plus quand je vous dis les mesures qui sont là ?
Les mesures, je vais vous dire, d'abord, on aurait adapté le système de santé. Aujourd'hui, il est dans le même état qu'il y a quelques mois, en pire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on aurait adapté les écoles, les universités, pour avoir d'autres locaux, pour pouvoir réadapter en mode Covid, notamment, toutes ces activités-là.
Ça fait deux fois
activités.
Que vous parlez des écoles, c'est intéressant. Ça veut dire, dans votre arrondissement, par exemple, il y a des parents aujourd'hui qui vous disent « mais moi, je ne veux plus amener mes enfants à l'école, je ne comprends plus ce qui se passe ».
À Paris, nous avons une chute vertigineuse du nombre d'enfants scolarisés. Moins 3700 enfants depuis la rentrée scolaire. Je ne vous parle même pas de la Seine-Saint-Denis, où il y a des enfants qui ont disparu des radars. C'est ça, la République ? Les inégalités ont explosé. La pauvreté n'a jamais été aussi importante que depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. C'est le Secours populaire français qui le dit. Est-ce qu'il y a eu un mot
selon vous, il y a une deuxième
vague,
des faillites et d'un appauvrissement qui est à l'œuvre ?
Mais les inégalités ont explosé dans notre pays d'abord. Elles s'aggravaient depuis le quinquennat d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les inégalités sont à leur comble. Les inégalités explosent. On a parlé pendant longtemps, on a applaudi les infirmières, on a applaudi tous ces ouvriers de la première heure et de la première ligne. Aujourd'hui, que sont-ils devenus ? Ils sont dans les files d'attente pour l'aide alimentaire.
Mais Madame Dati, qu'est-ce que vous répondez à l'argument du gouvernement qui dit, moi j'entends le ministre de la Santé, qui dit on ne pouvait pas en quelques mois créer des lits de réanimation et surtout former. Et on peut monter aujourd'hui jusqu'à 12 000 lits de réanimation, c'est ce qu'on entend.
Oui, mais les personnels de santé ont fait des propositions. Tous les médecins qui ils sont venus, Philippe Juvin, qui est chef des urgences de Pompidou, il avait fait des propositions, notamment pour réorganiser les services, pour qu'il y ait moins de strates administratives, pour que la décision soit beaucoup plus près du terrain, beaucoup plus près du soin. Moins d'administratifs, plus de soins, plus de santé. Ils ont fait, le corps médical a fait des propositions, ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été suivis.
Nous
c'est ça
moment,
le problème
nous
aujourd'hui.
Nous sommes à un moment important, beaucoup, beaucoup d'efforts vont être demandés aux Français. Le président hier, est-ce qu'il a fait œuvre au moins de transparence ? Est-ce qu'il avait fait œuvre de pédagogie ? Vous m'avez dit tout à l'heure, bien sûr les Français vont accepter le couvre-feu, mais ne vont pas y consentir. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Non,
qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Ils n'adhèrent pas aux mesures, mais ils respectent. Il respecte pourquoi ?
Mais quel est le risque s'il n'adhère pas ? Qu'est-ce qui peut se passer dans le pays ?
Il n'adhère pas, vous savez, je crois que ce gouvernement est fortement rejeté. Mais il respecte pourquoi ? Parce qu'ils sont responsables. Ils savent que ce virus continue de circuler. Et que le gouvernement n'a pas adapté notre pays à cette deuxième vague.
C'est-à-dire rappelez-vous, pendant des mois, rien n'a été fait selon vous ? Depuis mars-avril, rien n'aurait été fait, Rachida Dati ?
La preuve, demandez aux médecins. J'ai demandé aux médecins.
J'ai écouté le président de la République hier, il dit « on a retenu les leçons ». Quelles leçons, selon vous ?
J'en sais rien. Quelles leçons ? Le système de santé n'a pas bougé. Il est au contraire, il est encore beaucoup plus déstabilisé qu'au mois de mars. Les écoles, les universités, on n'en a tiré aucune leçon. L'université, c'est un lieu où se développent de nombreux clusters.
D'ailleurs, est-ce que vous connaissez aujourd'hui, vous êtes responsable politique, on a besoin de ce tableau de bord, est-ce que vous connaissez, vous, les foyers de contamination les plus importants, les principaux ?
Justement, on a eu une réunion, et d'ailleurs on avait demandé à Philippe Juvin, il y avait Éric Ciotti, comme vous le savez, il est président de la commission d'enquête sur justement la gestion de cette crise sanitaire, et d'ailleurs il nous faisait part que des responsabilités importantes vont être pointées, des dysfonctionnements graves ont été évidemment révélés dans le cadre de cette commission d'enquête.
Même au sein du gouvernement, jusqu'au ministère de la Santé ?
Bien sûr, ils devront répondre de ces erreurs, de
devant
ces dysfonctionnements.
Devant quoi ?
De toute façon, la commission d'enquête va pointer ses responsabilités. Mmh. Et donc, ils devront s'en expliquer. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de vision. C'est-à-dire qu'on dit on va faire le couvre-feu pendant 4 à 6 semaines. Mais pour quelle perspective ? Moi, j'aurais aimé que le président de la République dise « si ça ne marche pas, voilà ce qu'on va faire
». Mais
si ça marche, voilà ce qu'on
peut
faire.
Très concrètement, Madame Dati, il y aura une stricte limitation à circuler au-delà de 21h. Pour faire respecter toutes ces contraintes, on va compter sur les policiers. C'est leur mission ?
Il ne vous a pas échappé que la délinquance a explosé depuis ces deux dernières années. Et encore beaucoup plus et de manière vraiment importante depuis ces derniers mois. Et d'ailleurs, il y a un facteur et un élément dont on parle peu. La libération de plus de 13 500 détenus pendant le confinement, a été un facteur aggravant de cette délinquance.
Vous faites un lien de cause à effet entre ces libérations et ce qui se passe en ce moment.
Mais c'est une réalité. Plus de 13 500 détenus ont été libérés pour, au seul prétexte du Covid.
Mais nous sommes d'accord, c'est des prisonniers en fin de peine.
Pas tous. Et certains ont considéré que cette libération, c'était finalement la voie à l'impunité. Mmh. Il ne vous a pas échappé qu'aujourd'hui, l'impunité totale des délinquants s'est installée dans notre pays face à l'autorité. Aujourd'hui, les forces de l'ordre, les forces de sécurité, l'autorité plus globalement, alors, que ce soit les élus,
mais alors,
sont violemment attaqués.
Très concrètement, comment un couvre-feu à 21h dans certains quartiers, dans certains territoires où les policiers parfois rentrent même pas, comment ça va être respecté?
Les policiers eux-mêmes disent qu'ils sont déjà épuisés et débordés par la délinquance du quotidien. Et donc, va s'ajouter à eux cette nouvelle mission de devoir contrôler ce couvre-feu.
Mais d'ailleurs, à Paris, c'est la police nationale qui va...
Oui, parce que justement, à Paris, où la délinquance explose, où la police est déjà débordée, où le préfet de police a réclamé une police municipale armée, parce que la police municipale armée pourrait aider la police nationale justement pour faire respecter ce couvre-feu. À Paris, nous n'avons pas ce dispositif parce que Madame Hidalgo et ses alliés les Verts refusent de créer une police municipale. Qu'est-ce que vous craignez?
Qu'est-ce qui va se passer si ce couvre-feu n'est pas respecté?
Je pense que nous allons avoir encore d'autres débordements et que les forces de sécurité qui sont déjà violemment attaquées, ça va se poursuivre.
Le président de la République va les recevoir, les syndicats de police, ce matin. Est-ce que c'est le signe d'une reconnaissance, d'un soutien au plus haut sommet de l'État?
Vous savez, le premier soutien, c'est de pouvoir dire aux policiers que le ministre de l'Intérieur puisse effectivement être aux côtés des policiers et de leur dire de riposter quand ils sont
Madame
attaqués.
Dati, premier flic de France, Gérald Darmanin, est-ce qu'il ne fait pas le job?
Lequel? Celui de tweeter, oui, sans doute, mais on n'a pas besoin d'un tweetos.
Parce qu'il n'est pas réducteur, est-ce qu'il n'est pas auprès de ces hommes et de ces femmes? Non,
parce que, est-ce qu'il a dit clairement aux forces de sécurité, dès lors que vous êtes attaqué, vous ripostez? C'est possible dans la loi, nous serons à vos côtés. Ça n'est pas le cas. L'impunité s'est installée. Aujourd'hui, il faut des réponses claires et fermes.
Mais ça veut dire qu'à l'inverse, il y aurait des consignes pour que les policiers n'interviennent pas, vous pensez ?
Aujourd'hui, les policiers battent en retraite quand ils sont attaqués, vous n'avez pas remarqué ? Ils battent en retraite pourquoi ? Les policiers ont plus peur d'être mis en cause. Ils ont peur de leur mise en cause, alors que les voyous, en toute impunité, ils savent très bien, un, qu'ils ne vont pas être mis en cause, deux, qu'ils ne vont pas être incarcérés. Ni interpellés. Et donc, évidemment, l'impunité totale s'est installée. Aujourd'hui, il faut renverser cet ordre-là et l'ordre doit revenir, force doit rester à la loi et la police doit pouvoir riposter quand ils sont attaqués. Et ça, vous savez, ça c'est une politique de sécurité à assumer et à annoncer. Je peux vous dire que c'est extrêmement dissuasif. Il faut rétablir les peines planchers et notamment avec une peine minimale, à l'encontre de ceux qui s'attaquent non seulement aux forces de sécurité, mais à toute personne représentant l'autorité.
C'est ce que vous attendez en tous les cas. On verra ce qui sera notamment dit sur ce sujet par les syndicats de police après leur réception à l'Élysée. Merci Rachida Dati, merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous, ainsi qu'à nos auditeurs bien sûr.
Et puis n'oubliez pas la fête des entreprises aujourd'hui, d'être aux côtés des salariés et des dirigeants des entreprises.
Voilà, c'est dit, à bon entendeur. Merci à vous.
8h28 sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien avec nous à suivre l'info. Hélène Zélani, la météo, Laurent Cabrol, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Hélène Zélani.
Une tisane et au lit à partir de samedi minuit, c'est couvre-feu en Ile-de-France et dans 8 autres métropoles entre 21h et 6h du matin. Mesure qui va durer au moins un mois et concerner quelques 20 millions de personnes. À Marseille, où bars et restaurants avaient dû fermer avant tout le monde, on se demande comment ce couvre-feu sera appliqué. Reportage de Nathalie Chevance.
22h hier soir, le Vieux-Port est presque désert. Seuls quelques trentenaires savourent leur dîner en terrasse après une journée de travail. Le couvre-feu samedi, difficile à avaler pour Steve et Guillaume, employés du BTP.
Maintenant, à partir de 21h, ça fait tôt. Je pense que ça sera quelque chose de très compliqué à faire respecter, quitte à aller chez des collègues ou quoi que ce soit.
Je vais braver l'interdiction, oui, après il faut être franc. Je connais personne qui a pris 135€ pour l'instant.
Mais le président Macron compte sur la responsabilisation de chacun parce que les forces de l'ordre ne sont pas suffisamment nombreuses pour contrôler partout, en plus des missions habituels, comme le pointe Rudy Mana, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance.
Aujourd'hui sur Marseille, vous avez des secteurs où il y a 3 patrouilles de police. Il est absolument impossible pour 3 policiers d'aller dans un quartier quand il y a 200 personnes à l'extérieur pour dire rentrez chez vous, vous n'avez pas le droit d'y être. Et il faut bien comprendre que la police, elle n'est pas faite pour ça, elle est faite aussi pour arrêter les voleurs, pour arrêter les cambrioleurs. Aujourd'hui, la police marseillaise n'est pas assez nombreuse pour faire ce genre de choses. Les policiers marseillais ne sont pas ravis d'accomplir ce genre de mission.
Et pour l'instant, aucun moyen supplémentaire pour faire respecter respecter ce couvre-feu, alors qu'il manque ici depuis des années quelques 200 policiers. Marseille, Nathalie Chevance, Europe 1.
En cas de non-respect du couvre-feu, ce sera 135 euros d'amende la première fois, 1500 en cas de récidive. En revanche, pas de restriction pour les départs de la Toussaint à partir de demain. Le président a donc présenté les mesures pour freiner le virus et désengorger les hôpitaux. C'est maintenant le Premier ministre qui va les mettre en musique. Jean Castex donnera une conférence de presse tout à l'heure à 14h. Les personnels de santé sont pour leur part appelés à une journée de mobilisation dans toute la France, notamment pour de meilleurs salaires. On l'apprend ce matin, trois plaisanciers ont été retrouvés morts en mer par les secours au large du Finistère. Ils étaient partis en promenade hier en fin de journée à Saint-Guénolé. Les enquêteurs arriveront-ils à percer le mystère de la mort d'Estelle Mouzin il y a 17 ans ? Aujourd'hui, Michel Fourniret et son ex-épouse Monique Olivier sont transportés à Guermantes en Seine-et-Marne, sur les lieux mêmes de la disparition de la fillette. Maître Didier Seban, l'avocat du père d'Estelle, espère que cela aidera à faire éclater la vérité.
Évidemment, depuis 17 ans, nous nous posons tous les jours la question qu'est-ce qui s'est passé ? Où a-t-elle été enlevée ? Donc je pense que nous allons rester très tard, qu'on attendra que la nuit tombe pour se remettre en situation. On va arpenter Guermantes et tous les lieux possibles où a pu se cacher Michel Fourniret, où a pu passer Estelle. Souvent, dans ces moments où on place Michel Fourniret et Monique Olivier sur place, il y a des moments, des fois, de colère ou d'expressions qui permettent de capter une vérité. Et nous, avocats de la famille d'Estelle, notre objectif est de savoir où est le corps d'Estelle.
Maître Seban, micro européen de Chloé Triomphe. Et puis sommet européen aujourd'hui à Bruxelles. Le Premier ministre britannique se dit déçu du manque de progrès sur le Brexit. Boris Johnson décidera après le sommet s'il poursuit ou pas les négociations.
Merci Hélène Zellani. Vous êtes sur Europe 1, tout de suite pour la météo.
Le 13 octobre est la journée nationale du cancer du sein métastatique.
Ce sont des mots qui font peur. Je le sais parce que j'en ai un. Les métastases, c'est quand le cancer a touché d'autres organes. On ne peut pas en guérir, mais grâce au progrès de la médecine, on peut vivre avec de plus en plus longtemps. C'est pour ça que je me bats, avec le collectif 13-10 qui se mobilise pour améliorer le parcours de soins, la qualité de vie des patientes et leur maintien dans la société.
Pfizer soutient la journée nationale du cancer du sein métastatique et le collectif 13-10. Pour en savoir plus, pactonco.fr de Pfizer et collectif1310.fr.
8h35 sur Europe 1. Laurent Cabrol avec nous pour la météo.
Oui, je ne vous parlerai pas de pluie réelle, puisque les pluies seront quand même assez discrètes, mais en fait, c'est une journée quand même de grisaille, de brume, de bruine, de nuages bas. Enfin bref, c'est une journée très maussade et souvent très désagréable. On ne parlera pas de grosses pluies, on ne parlera pas d'intempéries majeures, mais d'une journée d'automne assez classique. Les éclaircies, en les cherchant bien, on les trouvera sur le nord, la région parisienne, la vallée de la Loire, sur la Champagne-Ardenne, le Poitou-Charentes, l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées. Ce matin, dans toutes ces régions, bien sûr, il y a des nuages, mais on peut espérer dans l'après-midi un rayon de soleil. Les températures maximales entre 10 et 15 degrés, donc ça ne change pas trop. Demain, ce sera pratiquement le même schéma, avant un changement de temps assez flagrant à partir de samedi.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. Notre santé, notre planète, on prend soin les uns des autres dans quelques toutes petites secondes sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h37 sur Europe 1, notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous.
On écoute le président de la République hier soir.
Nous en avons jusqu'à l'été 2021, au moins avec ce virus. Tous les scientifiques sont clairs.
Alors nous allons revenir évidemment avec vous, Jimmy, sur ce couvre-feu, cette nouvelle vie qui nous attend. Couvre-feu annoncé par Emmanuel Macron. Est-ce que cette mesure permettra de contrôler l'épidémie ?
Oui, c'est la seule mesure qui était possible avant un confinement. Et là d'ailleurs, c'est un confinement partiel. L'objectif, c'est de réduire les contaminations. On est aux alentours de 20 000 par jour. Il l'a dit, il faut que nous arrivions à 3 à 5 000 par jour avec une baisse dans les réanimations. Alors, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre très longtemps, des mois, très facilement, si nous faisons un peu n'importe quoi, si nous n'allons pas tous dans la même direction. Si jamais on joue tous le jeu et qu'on ne joue pas au jeu du chat et de la souris en se disant « Tiens, jusqu'à 21h on peut se réunir, faisons un after tea. Dimanche on peut aller bruncher, on peut profiter d'essayer de faire des soirées et mettre des matelas pour dormir tous ensemble. » Eh bien nous allons perdre car le virus est plus fort que toutes les stratégies qu'on pourra adopter. En revanche, si nous allons tous dans la même direction, si on arrête de critiquer les mesures alors qu'elles viennent à peine d'être annoncées, si on respecte ce qui a été demandé, peut-être qu'en quelques semaines, les contaminations peuvent baisser. C'est le cas notamment au Canada. Ils ont fermé il y a 15 jours les bars, les restaurants, les salles de spectacle et puis le nombre de contaminations a chuté drastiquement. Donc il est possible d'aller très vite ou encore une fois que ça mette très longtemps. J'aimerais juste rappeler que pour soutenir l'économie, il faut contrôler l'épidémie. Et à mesure que l'épidémie sera contrôlable, on pourra retrouver une vie normale. Je sais que c'est difficile pour les restaurateurs, mais on a besoin un peu d'une forme d'union nationale, et notamment les responsables politiques qui désormais proposent non pas de la désobéissance, mais une critique permanente. Nous devons tous aller dans la même direction, y compris les médecins, les scientifiques ou ceux qu'on appelle les rassuristes, qui sont à mon sens que des fraudeurs. Je vous invite à lire cette tribune de 90 sociétés savantes et d'associations qui réclament une loi contre la fraude scientifique. Nous devons tous être exemplaires.
Un autre mot aussi, c'est la question de la solidarité intergénérationnelle. Le président de la République, toujours hier soir.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020.
Oui.
C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible.
Vous nous en avez parlé déjà, Jimmy, cette question de bulle sociale. Le président a dit aussi pas plus de 6 personnes pour les réunions privées. Pourquoi ce nombre ?
Alors, c'est vrai que 6, pourquoi pas 5 et pas 7, il faut donner un nombre de toute façon. Mais le tout, c'est de réduire vos interactions sociales. Et j'aimerais dire que ces mesures de restriction concernent toute l'Europe et pas uniquement la France. Donc, les jeunes ne sont pas sacrifiés. Les personnes âgées payent un lourd tribut lié à l'isolement, lié au fait qu'ils ne sont pas suivis. Donc, soyons patients. Axel Kahn rappelait que la première des libertés, c'est de ne pas être contaminé. Donc, il est important de ne pas voir ces mesures comme des restrictions de liberté, mais comme des mesures de protection pour que le pays aille mieux. Et je vous rappelle que ces jeunes ne sont pas exempts d'infection au coronavirus et que nous ne connaissons pas les séquelles. Si dans 20 ou 30 ans on se rend compte que ça entraînait certaines pathologies neurologiques, cardiaques, on a l'air bien malin. Donc soyons prudents, soyons patients et réduisez vraiment vos interactions sociales.
Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, qu'on retrouve tous les jours de 15h à 16h, l'émission Sans Rendez-vous. Il est 8h40. Notre planète avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors ce matin Fanny, vous nous dites que l'avenir de notre climat pourrait dépendre des nuages.
Oui, des nuages qui sont de grands régisseurs du climat dont on parle peu, trop peu. On devrait pourtant leur donner un intérêt majeur et donner un coup de collier à la recherche sur leurs impacts si l'on part du principe que dans un climat plus chaud vers lequel nous allons, il y aura plus d'évaporation et de condensation et donc a priori plus de cumulification comme le disent joliment les météorologues, c'est-à-dire plus de nuages. Ce qu'il faut comprendre, c'est que leur multiplication peut avoir un impact décisif sur la montée ou sur la baisse du thermostat dans les années à venir. Et sur ce sujet, on a de gros doutes. C'est même l'un des principaux points d'interrogation des scientifiques, le point nodal, celui qui agace, qui dérange, qui leur fait s'arracher les cheveux et même s'écharper entre eux tellement il n'y a pas de consensus.
Alors quel rôle auraient les nuages dans la baisse ou dans la montée des températures à venir ?
Eh bien les nuages, en fonction de leurs caractéristiques, vont soit venir réchauffer, soit venir refroidir le climat. Les nuages bas, du type stratus, eux vont bloquer le rayonnement infrarouge, c'est-à-dire que la chaleur emmagasinée sur Terre ne va pas pouvoir être renvoyée vers l'espace car bloquée par ces nuages. On parle alors d'effet couvercle, le fameux effet de serre, et dans ce cas-là, le climat se réchauffe. Alors qu'au contraire, les nuages d'altitude, eux, ont un effet inverse. Eh bien, on peut les qualifier d'effet parasol, ils vont agir comme un voile occultant entre nous et le soleil et donc nous faire ombrage en amoindrissant le rayonnement qui arrive sur Terre, ce qui pourrait en fait venir tout réparer et nous garantir un climat appréciable, en tout cas viable pour les années à venir.
Alors cela voudrait dire que nous pourrions faire le pari que le climat s'autorégulera tout seul à l'avenir grâce à ces nuages parasols, si je vous suis bien. Dans ce cas, pas besoin de se prendre la tête à vouloir ralentir sur les énergies fossiles, Fanny.
Eh bien le souci, c'est qu'à ce jour, on n'est déjà pas capable, Mathieu, de modéliser le climat si finement pour les années à venir et les scientifiques peinent à entrevoir quel type de nuage va dominer au-dessus de nos têtes dans le futur, avec soit un phénomène d'atténuation, soit au contraire, et ça c'est plus grave, avec les nuages bas, une retenue de la chaleur et donc une accélération du processus de réchauffement qui nous compliquerait bien la vie. Donc on ne peut pas jouer à cette roulette russe, le risque est trop grand de parler d'une éventuelle autorégulation climatique. Quoi qu'il en soit, l'arrêt des énergies fossiles reste une priorité absolue, ne serait-ce que pour des raisons de qualité de l'air et donc de santé publique.
Merci Fanny Agostini, Notre Planète. Il est 8h43. À suivre la revue de presse que Nicolas Canteloup et Julie qui s'installent.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Vous êtes prêt, Mathieu Béliard ?
Toujours.
Bon, on va vous retrouver avec plaisir. Hein.
Merci ma chère Julie. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Europe 1 écoute le monde changer.
Mais écoute le monde, ne rien faire. Écoute le monde chez lui. Écoutez, écoutez le monde mettre ses pantoufles. Écoutez le monde faire des sudoku. Écoutez la radio. La radio, puisque de toute façon, puisque aujourd'hui, il n'y a que ça qu'on a le droit de faire.
Et oui,
cher Julie, couvre-feu, faut-il le rappeler, de 21h à 6h du matin. Et pour 4 à 6 semaines. Mm-hmm. Sinon, on va prendre, vous le savez, des amendes. 135 euros, le président de la République l'a dit, et 1500 euros en cas de récidive. Autrement dit, à Paris, il n'y aura plus que les joueurs du Paris Saint-Germain capables de se balader dans les rues comme avant. Tout de suite, d'ailleurs, tiens, l'analyse, c'est intéressant. Jean-Michel Apathy, votre analyse.
Bonjour ma chère Julie, bonjour à mon collègue rouleur de R Mathieu Béliard. Écoutez, ce couvre-feu, franchement, était-ce bien nécessaire? Quel est ce besoin de vouloir réguler la vie nocturne? Parce que les clusters, on sait où ils sont. C'est pas dans les entreprises de nuit, c'est pas dans les universités de nuit ou dans les fameuses classes nocturnes de l'école primaire. Convenons-en, tous autour de cette table, qu'on ne vit pas réellement de 21h à 6h du matin. On n'a pas tous la vie de Nicolas Bedos.
Bon, visiblement, c'était ça ou un reconfinement, voilà.
Ah mais c'est un reconfinement, Julie. Ah bon. C'est un reconfinement, vous appelez ça comment vous? Des RTT du fun, un congé de loisirs? Non, franchement, par rapport à un reconfinement, ça ne change rien.
Merci Jean-Michel.
Merci Jean-Michel Amasti pour cette analyse. Tout de suite, tiens, une analyse complémentaire de notre chroniqueur économique, Nicolas Barré. Nicolas Barré qui a écouté attentivement le président. Que pensez-vous de la fameuse règle des... Il en a parlé, le président, des six amis.
Ah, ben, oh là là. Ça va être... c'est vrai que c'est une mesure compliquée à respecter, évidemment. Et par exemple, moi, il va falloir que je trouve 5 amis. Je ne sais pas comment faire. Franchement, ça commence à devenir compliqué à vivre, ce coronavirus.
Merci mon pauvre Nicolas.
Oh, j'entends. Allez. Que ça pouffe.
Non, vous inquiétez pas, on vous soutient. Allez, Emmanuel Macron s'est donc exprimé hier soir sur à la télé.
Non, c'était sur Europe 1.
La nouvelle est tombée, couvre-feu dans les grandes métropoles. Bonjour monsieur le président.
Ici l'Élysée, le président parle aux Français. Le couvre-feu est décrété. Je répète, le couvre-feu est décrété. Plus de teuf que du taf. Plus de teuf que du taf. Les sorties au restaurant sont rationnées. 1 mètre de distance doit être maintenu dans les files d'attente devant les magasins. Des agents de l'État distribueront à domicile topinambours et disques de Maurice Chevalier pour ne pas trop s'emmerder le soir.
Oui, bon, monsieur le président, c'est bon, on a compris, hein, c'est bon.
Oui, bah, écoutez, excusez-moi, hein, mais...
Quoi ?
Sur les faits, là, merci. Oui, quelqu'un t'a annoncé un couvre-feu au feu, autant le faire bien, excusez-moi.
Bah, oui, mais quand même, enfin bon. Vous imaginez à quel point les Français sont abattus ce matin, quand même ?
Oui, bon.
Bah si.
Franchement, non mais écoutez, allons, arrêtez, abattu, tout de suite les grands mots. Parler des Français comme si c'était une nation de fêtards, de gros teufeurs qui se couchent à 4h du matin. On n'était pas quand même le pays des soirées mousses, ou alors je m'étais rendu compte de rien. Hein, vous étiez la reine des soirées mousses, même Julie, peut-être.
Non,
vous aviez caché ça.
Oui,
peut-être qu'on fait la vaisselle le soir, peut-être, je ne sais pas. Non, consolez-vous en vous disant que vous pouvez toujours faire ce qu'il y a de plus beau au monde. Travailler, voilà.
Ah, oui.
Mais oui, mais c'est épanouissant. Vous pouvez travailler de 6h à 21h non-stop si vous le souhaitez. De quoi a-t-on besoin d'autre dans la vie que de se sentir productif, franchement?
Non, mais franchement, ces annonces, elles étaient quand même violentes. Hein.
Oh, vous allez me faire pleurer, là, Julie. Non, mais arrêtez avec des mots forts, violents. On est en octobre, même, Julie, réveillez-vous. Vous n'allez pas me faire croire que c'est une contrainte de ne pas sortir de chez soi. Bon, au printemps, monsieur Béliard, je l'entends. Ah, oui. Monsieur Vandel, je veux bien, il fait beau, on a envie de boire des bières avec les copains au soleil. Bon, pourquoi pas? Mais là, rester chez soi le soir sous un plaid à regarder Joséphine Angegardien en bougeant une verveine. Hein, franchement, regardez-moi dans les yeux, c'est ce que vous faisiez tous les uns et les autres avant. Hein, de toute façon, j'ai les scandosiens.
Alors, ce couvre-feu, c'est aussi pour empêcher les réunions privées, hein, les réunions familiales.
Hmm, voilà, nous devions lutter contre les épidémies de l'hiver.
Bah, le Covid et la grippe. Hein,
non, les raclettes. Ah ben c'est le seul truc qui effectivement fait sortir les gens de chez Oliver. C'est les soirées raclette, 3 fois par semaine avec les amis, on le sait tous. Tous les prétextes sont bons pour s'empiffrer. Hein,
Monsieur Béliard,
je vois pas ce qu'il nous a.
Au hasard.
Empêche, moi, la raclette, je la mange tout seul pour ça.
Oui, aussi. En tout cas, on pouvait pas laisser le virus se répandre comme ça, bêtement, dans du fromage fondu. En plus, ça fera, en plus, de façon concomitante, comme dirait Monsieur Ciotti, ça fera baisser le cholestérol.
Et puis, pour les restaurateurs et les bars, bah, c'est le coup de grâce, hein, couvre-feu.
J'ai conscience des difficultés pour les restaurateurs. C'est pour ça que nous n'avons pas voulu fermer leurs établissements. Et notez que nous n'allons même pas empêcher les gens d'y aller. Nous leur interdisons juste d'en sortir trop tard. Mais on peut faire, écoutez, on peut faire d'excellents dîners à 17h30,
17h45. Oh, ça, je ne m'inscris pas en faux, c'est totalement exact.
Gérard Larcher, le président du Sénat. Alors, vous soutenez cette idée de couvre-feu, vous ?
Mais bien sûr, il a raison. Là, je suis en phase. À 17h30, je confirme, même 16h15, je confirme qu'on peut faire d'excellents repas. Alors oui, je ne vois pas où est le problème. Et si on a encore faim à 19h, ben voilà. On rentre chez soi et on se fait des nouilles. Voilà, en solitaire ou une raclette comme Monsieur Béliard en solitaire. Comme ça, on est calé pour patienter jusqu'au dîner.
C'est ça, bon courage, hein, monsieur Larcher. Le chef de l'État a donc précisé dans les nouvelles restrictions les réunions à domicile et il est recommandé de les limiter à 6 personnes.
Repentez-vous, soyez maudits. Non, mais comment allons-nous nous réunir en famille, nous les catholiques ?
Philippe de Villiers, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire là ?
Évidemment, tu ne comprends pas, femelle.
Oh, ça va.
Oui, ça va. Elle se rebelle. Je ne t'ai jamais entendu rendre hommage au Seigneur sur l'antenne de ta radio. Tu n'as aucune notion de ce qu'est la vie sainte et saine d'un catholique. Mais sache, laïcarde.
Quelle insulte.
Que nous ne pourrons pas nous réunir avec ces restrictions. Une famille catholique normale, il faut le savoir, c'est quoi ? Ben c'est 14 enfants. Alors on doit... Ben oui, il faut parler concrètement, on doit virer qui ? Qui doit manger à la cave ? Hein, on tire au sort, on fait quoi ? C'est à nouveau une attaque en règle contre les Français, les vrais... Taillot, mon joie, défendons la liberté.
Oh, calmez-vous. Merci Philippe de Villiers. Allez, le Salon de l'agriculture 2021 est d'ores et déjà annulé à cause de l'épidémie. On est en ligne avec Jean Lassalle. Bonjour, monsieur Lassalle.
Ah. Oui, bonjour, Julie. Bonjour, je vais dire. Ah, c'est la famille Agostini qui est à la traite. Écoutez, justement, je dois annoncer... oui, il y a une ambiance festive ici d'affaires. Je dois annoncer la mauvaise nouvelle aux animaux. Pardonnez-moi, je m'excuse, je ne sais pas si vous entendez encore le micro, mais je m'adresse à les filles Blanchette, hein, Marguerite, Saturnin, reste tranquille. Qu'est-ce qui est dissipé, ce canard ? Bon, vous tous, écoutez-moi un peu là, un peu sérieux. J'ai une mauvaise nouvelle. Cette année, le salon de l'agriculture est annulé. Je sais, je vous entends, je sais, vous êtes déçus. Je sais, moi aussi. Donc, je sais, vous ne pourrez pas avoir Paris cette année. Oui, Marguerite, je sais que tu voulais monter en haut de la Tour Eiffel, c'était ton rêve, mais ce ne sera pas possible. Ceci dit, console-toi, et je vais te faire une confidence. Marguerite, écoute-moi. Il y avait assez peu de chances qu'on te laisse utiliser les escaliers de toute façon.
Ou les ascenseurs.
Non, alors, c'est limité au niveau du poids, même, je dis. C'est limité.
Alors, la FNSEA promet des alternatives, notamment de grands marchés dans 4 villes françaises.
Oui, mais ce n'est pas pareil. Des marchés, vous savez, ici, on en a déjà. On a même que ça pour s'occuper. Là, ils voulaient voir Paris. Ils voulaient voir la capitale. J'ai toujours voulu amener mes moutons. Je leur avais fait cette promesse avant de vivre la fin de leur vie. Je voulais qu'ils voient les moutons, les folies bergères.
Ah, bien. magnifique.
Oui, un petit jeu de corrélation, un petit jeu de mots sympathiques.
Très bien.
Fait du bien toujours à 9h du matin.
Alors, la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, a demandé aux citoyens français d'aider l'agriculture qui va mal. Conséquence, bien sûr, de la baisse d'activité des restaurants. Elle déclare les Français consomment moins de frites, de bière, de vin, de cidre, de produits qu'on a l'habitude de manger au restaurant.
Oui.
Ils en consomment moins chez eux, bien sûr.
Voilà, voilà. Sauver un agriculteur, manger des frites, c'est l'appel que nous lançons avec NSA. Même les enfants peuvent participer. Monsieur Béliard, oui. si vos enfants nous écoutent, pouvez-vous leur dire que papa va leur faire des frites tous les midis pour aider Monsieur Lassalle et ses amis paysans.
J'ai très peur qu'il
Mais oui, il faut le dire à vos auditeurs. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas entendu.
J'ai très peur qu'il n'écoute en vrai, en fait. C'est un engagement
difficile
à prendre.
Oui, mais bien sûr. Vous savez, ça n'a jamais été aussi facile d'aider le monde paysan. Il faut boire comme des trous, manger du gras et du pâté. Pour notre santé, je lance cet appel à vos auditeurs. Bouffez plus. Allez, allez, qui veut un bon bol d'alcool de pomme de terre autour de cette table, hein?
C'est de la vodka, non?
Mais si vous ne vous bourrez pas la gueule pour vous, Mme Julie, bourrez-vous la gueule pour la France.
Ouais, c'est ça,
santé.
Santé. Bravo pour les bruitages.
C'est beau, c'est beau. Julie, merci beaucoup. Nicolas Canteloup, bravo. Et bravo aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demange. 8h57 sur Europe 1. Philippe Vandel nous a rejoint. Culture Média, la matinée continue. Bonjour mon cher Philippe.
Évidemment, bonjour Mathieu. Notre info média du jour, c'est un phénomène de plus en plus fréquent sur Internet, le cybersquattage. Imaginez que vous vouliez faire un site internet mathieubéliard.com,
oui.
Mais que l'adresse a été confisquée pour faire autre chose qui n'a rien à voir. Eh bien, énormément de marques en sont victimes et même Stéphane Bern et sa mission Loto du patrimoine. On va entendre des explications. On sera également avec un spécialiste, Pierre Bonis. Et puis le grand retour d'un programme culte, Faites entrer l'accusé. Émission toujours aussi ambitieuse. 5 mois de tournage pour un seul épisode. On sera avec le nouveau duo qui incarne le programme, Rachid Embarki et Dominique Rizet. Et puis le romancier Jean Tellet pour une biographie très surprenante de Baudelaire, le premier punk sur Terre. Et c'est Tellet qui le dit.
Bah écoutez, on va l'écouter, surtout ouais, Tellet qui nous parle de Baudelaire comme un punk. Philippe Vandel, Culture Média, la matinée continue sur Europe 1 jusqu'à 11h. Pour ma part, je vais vous souhaiter une belle journée. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, Oui, pardon.
D'ici là, j'imagine que le monde aura changé.
Je l'espère, sinon on n'aura rien à raconter.